c'est une action politique, c'est de la résistance, c'est tout.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le live vraiment politique du Média. La semaine qui s'écoule a été sinistre. Lundi soir, le Premier ministre Édouard Philippe saisissait l'occasion fournie par les actions menées par des Black Blocs le samedi 16 mars sur les Champs-Élysées pour annoncer un train de mesures extrêmement répressives destinées à mettre un terme à la protestation des Gilets jaunes. Interdiction des manifestations sur les Champs-Élysées et dans plusieurs centres-villes français, drones, marquage au corps des manifestants par des produits chimiques, encouragement à peine voilé à des violences policières redoublées et désormais recours à l'armée. Alors qu'un sondage Via Voice révélait hier que près de 9 Français sur 10, 86% des gens pensent qu'il faudra réorienter la politique économique et sociale actuelle à l'issue du grand débat, le gouvernement a choisi le passage en force violent. Comment avancer ? Après 19 semaines, par-delà la répression, l'obstination du gouvernement, l'épuisement, quelles actions envisager pour marquer le point par-delà les manifestations? Comment organiser la résistance? C'est le thème de notre débat ce soir. Laissez-moi vous présenter les 4 invités autour de la table pour en discuter avec moi à Montreuil. Et tout d'abord, Jérôme Rodriguez. Jérôme, vous êtes gilet jaune depuis le 17 novembre, figure très populaire du mouvement. Vous avez été mutilé à l'œil par les forces de l'ordre lors de l'acte 11 à Paris, place de la Bastille. Je suis particulièrement touchée de vous recevoir ce soir aux médias. Nathalie Lemoyle, Nathalie, bonsoir, gilet jaune de Normandie, où vous aidez à tenir un rond-point. Nous vous avons rencontré dans le quartier des Champs-Élysées samedi dernier, pendant l'acte 18, une complice du pire, donc. François Boulot, avocat, bonsoir. Autre figure bien connue du mouvement, vous êtes porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Et enfin, Aïk Chaignan, bonsoir.
Bonsoir.
Gilets jaunes, vous avez été le directeur de campagne de la liste aux européennes d'Ingrid Levavasseur. Vous avez démissionné de cette fonction assez rapidement et vous avez fondé depuis le mouvement alternatif citoyen, le MAC, une nouvelle formation politique. Vous nous expliquerez vos objectifs. Je signale à tous ceux qui nous regardent ce soir que vous pouvez commenter la soirée en direct avec le hashtag VraimentPol sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et tout de suite, nous passons à la première partie de notre soirée. Les annonces extrêmement menaçantes faites cette semaine par le gouvernement compromettent-elles la suite du mouvement? Comment y faire face? Ce sera la première partie de notre débat. Alors, pour ceux qui auraient récemment séjourné à l'étranger ou n'auraient entendu que les paroles rassurantes à ce sujet des chaînes mainstream, on va tout de suite regarder ensemble un petit aperçu de l'extraordinaire violence des annonces faites par Édouard Philippe et La République En Marche cette semaine. Tout de suite, le magnéto.
Nous ne pouvons pas laisser une infime minorité violente abîmer notre pays et détériorer l'image de la France à l'étranger. Les prochains jours seront donc décisifs.
J'espère qu'il n'échappe à personne que les scènes auxquelles on assistait, ce sont des scènes d'émeutes, de guérilla urbaine, et que les 10 000 personnes qui étaient présentes à Paris sur les Champs-Élysées étaient des personnes qui étaient là pour en découdre, puisqu'on parle d'attroupement maintenant.
Oui.
Je me refuse à parler de manifestation.
Effectivement, ceux qui manifestent sont radicalisés, approuvent la violence quand ils ne participent pas à la violence, l'approuvent, ils le disent. Donc ce ne sont pas, ils ne sont pas dans l'esprit du gilet jaune.
Nous partons du principe que ces rassemblements sont des rassemblements d'émeutiers qui ne visent qu'à causer des troubles et donc ils seront dispersés immédiatement. Et s'il le faut, nous interpellerons massivement.
Il y a deux types de marqueurs. Un qui est un marqueur coloré. Les autres ne sont pas des marqueurs, on les appelle ADN, mais ils ne sont pas des marqueurs de type ADN, mais c'est des marqueurs transparents qui fait que quelques semaines plus tard, si l'enquête aboutit à penser que c'est vous qui êtes à responsabilité, que vous êtes interpellé, on va retrouver les traces. Et on pourra dire, tel jour, à telle heure, vous étiez devant tel magasin.
L'objectif, justement, c'est que les militaires ne soient pas en confrontation directe avec les manifestants, qu'ils soient simplement dédiés à la protection des bâtiments. Ça va libérer, en fait, aujourd'hui, des policiers qui sont devant ces bâtiments et qui seront beaucoup plus nombreux à pouvoir être en confrontation directe.
Ces ultra-violents, monsieur le député Ciotti, veulent casser la démocratie et nous devons répondre. Et notre réponse est claire. Et le Premier ministre l'a rappelé lundi. C'est celle de la fermeté. Et la fermeté s'imposera partout.
Alors, premier tour de table, Jérôme Rodriguez, qu'est-ce que ça va changer pour vous, les annonces faites cette semaine par le gouvernement ?
Dans l'absolu, rien du tout. Moi, je remarque juste encore l'incompétence de notre gouvernement à répondre par la répression à défaut d'écouter nos revendications. On continuera à les manifester, c'est notre droit le plus strict en France. Je ne pense pas qu'il nous l'ait interdit dans l'absolu. On ira s'exprimer, c'est aussi notre droit le plus strict en France. Donc on ira s'exprimer. Je pense que ça, ils ne pourront pas nous l'interdire. Donc ils pourront mettre toute forme de répression en place. Le coup des marqueurs, quand on se fait gazer, on est déjà marqué. Donc je ne vois pas l'utilité de faire ça. Les drones, on les réclame depuis longtemps, ne serait-ce que pour s'apercevoir de la foule. Donc comme ça, on aura au moins une réalité du terrain. À défaut de faire parler les chaînes mainstream, comme vous dites. Moi, ça ne change rien. Voilà, j'appelle à continuer à être visible dans la rue le samedi, parce qu'on est en France et qu'on se doit de le faire pour être entendu et pour être visible.
Faisons un tour de table. À quoi doit-on s'attendre, selon vous, samedi prochain ?
Alors, déjà, je voudrais juste ajouter, je ne pense pas qu'ils sont incompétents. Je pense que ce n'est pas de l'incompétence, je pense que c'est une stratégie politique et électoraliste très bien réfléchie et que Emmanuel Macron, depuis bien longtemps et dès son élection, a choisi la stratégie de dire que c'est soit lui, soit le chaos, soit lui, soit les extrêmes. Et aujourd'hui, depuis 18 mois déjà, depuis 18 semaines déjà, il a entrepris aussi cette stratégie de dire finalement je ne réponds rien sur le fond parce que je peux rien répondre sur le fond. Et les gens qui sont dans la rue, c'est des factieux, c'est des extrêmes, c'est des radicaux. Il a pas fallu attendre jusqu'à ce qui s'est passé le 16 mars. On se rappelle que dès le troisième semaine des manifestations, on était déjà insulté de tous les noms. Donc aujourd'hui, on a une situation où on a un gouvernement qui est très compétent dans la stratégie qui est la sienne, sauf que la stratégie qu'il a choisie est dangereuse pour la République. Et qu'aujourd'hui, ceux qui mettent en place le chaos, ce ne sont pas des gens qui sont sortis dans la rue manifester pour des revendications légitimes, ce sont des responsables politiques qui font les choix d'un chaos pour des objectifs électoralistes.
Oui, je crois effectivement. Alors, savoir est-ce que le gouvernement est malhonnête ou dans le déni ? Ça, c'est la question à 1 000 000 $. Est-ce que le président de la République a conscience qu'il fait n'importe quoi ? Ou est-ce qu'il est dans la quatrième dimension, totalement hors sol, parce que ses amis, finalement, c'est la haute bourgeoisie qu'il ne connaît qu'eux et qu'il ne comprend pas, en fait, le mouvement social et même populaire auquel il fait face depuis maintenant plus de 4 mois. C'est très singulier parce que, depuis le début, l'unique réponse a été sur le terrain de la répression, policière et judiciaire. Dès le début, on a eu l'évacuation des ronds-points. Plusieurs fois par jour, le rond-point des vaches, par exemple, à Rouen, ça a été 40 ou 50 évacuations successives. Et encore, ce matin, il y a eu une sommation de quitter les lieux délivrée par un huissier. On a eu les arrêtés préfectoraux, en masse, successifs, qui ont été délivrés pour interdire les manifestations. On a eu les interpellations préventives le 8 décembre, où là, je l'avais déjà dit sur ce plateau, mais on était dans Minority Report, et on était donc, a priori, le ministre de l'Intérieur était capable d'anticiper les gens qui allaient commettre des infractions parce qu'ils avaient un gilet jaune dans la voiture. Bon, il fallait simplement lui rappeler que c'était la loi, hein, a priori, et donc on ne pouvait pas arrêter les manifestants. En fait, ils ont continué par la suite, outre cette répression en plus. Et c'est effectivement, ça ressemble à la stratégie du chaos, parce qu'ils n'ont cessé d'insulter les gens, de jeter de l'huile sur le feu, en qualifiant dans les discours de vœux les gens de foule haineuse. Le porte-parole du gouvernement, c'est les agitateurs. Le ministre de l'Intérieur, ce sont les séditieux. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même les instances internationales qui se sont mobilisées. On a le Conseil de l'Europe, on a le Parlement européen, on a l'ONU, On a quand même l'ONU aujourd'hui qui s'est mobilisée. Alors les éditorialistes, et notamment sur une chaîne bien connue d'information en continu, qui au terme de leurs réflexions et de leurs démonstrations très pertinentes, ont pu déceler qu'il s'agissait d'un complot entre le Venezuela et je ne sais quel parti d'opposition du pays. Bon, tout cela est absolument sidérant, mais ça dit en plus que le pouvoir est accompagné effectivement par une caste médiatique qui a un réflexe de classe pour tenter par tous les moyens de discréditer ce mouvement. Et je crois qu'il faut qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent qu'en fait, que la révolution, elle est faite dans les esprits depuis le 17 novembre 2018. Voilà des gens qui, depuis des années, se sentaient impuissants parce qu'ils étaient isolés et ils ont pris conscience de leur force collective en se rassemblant. Le couvercle a sauté et ils ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Donc, il va falloir apporter des réponses politiques. Donc, comme le dit Jérôme, ça ne va rien changer parce que plus on les menace, les gens, plus on essaye de les intimider et plus ils sortent dans la rue. Et c'est ce qui s'est passé notamment quand il y a un rebond extraordinaire au mois de janvier. Tout le monde croyait que le mouvement était mort à cause des fêtes de fin d'année, et puis le mouvement est reparti de plus belle.
Est-ce qu'il n'y a pas des gens quand même effrayés par la férocité de ces annonces? Est-ce que vous allez manifester samedi prochain?
Mais bien sûr. Et d'ailleurs, moi, j'ai le message, c'est qu'il faut que chaque personne qui va manifester trouve une personne qui vienne avec, et on double les chiffres. Ça, c'est déjà la priorité. Et ensuite, je pense que le gouvernement, il connaît les causes. Il sait très bien pourquoi on est dans la rue. Il fait la sourde oreille. Ça fait un moment que ça dure, on en a marre. Les gens, ça fait 18 fois qu'ils vont dans la rue. On hurle, on dit que ça va pas, et ils nous gazent. Ils arrachent des yeux, des mains, des pieds. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où on va, quoi? Donc oui, il faut résister. On a peur quand on va, parce qu'on a peur des flics, excusez-moi du terme, mais c'est d'eux qu'on a peur. Nous, quand on s'en va en manif, nos parents, notre famille nous dit « Oh là là, faites attention, c'est dangereux. Vous vous rendez compte ?» Ils utilisent des armes chimiques, qui sont les lacrymos, contre nous, contre leur peuple. Vous vous rendez compte? C'est super grave. Enfin, moi, j'ai des choses que j'ai notées comme ça. Je vais vous donner une anecdote. On habite à côté de Bayeux, c'est une toute petite ville. Et en parlant de répression, comme tu disais tout à l'heure, on jette pas des pierres, on n'a pas de lacrymo, on n'a pas de flashball, on a des mots. Parce que voilà, chacun fait avec ce qu'il peut. Et donc on lit des lettres régulièrement, comme ça, que Émile écrit. On a un magnifique arbre de la liberté à Bayeux. Et on dit, on va lire cette lettre avec les amis gilets jaunes, sous l'arbre de la liberté. On convoque la presse, puisque là tout va bien, il n'y a pas de... Hein. Et ben, on s'est retrouvés, on était une trentaine de gilets jaunes, il y avait une trentaine de flics. On était cernés. Alors qu'on faisait une simple conférence de presse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus le droit d'être libre dans notre pays, de lire des lettres? Il n'y avait rien de méchant, il n'y avait rien de... Voilà, quoi. On se défendait. Et oui, on va continuer. On ne va jamais arrêter. Ça, c'est sûr, certain. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
Jérôme, vous qui êtes... qui recueillait énormément de témoignages de gilets jaunes, qui est sur les réseaux sociaux une des personnalités les plus suivies. Vous ne voyez personne qui soit démotivé, effrayé, qui veuille renoncer?
Quand ça fait 2 semaines que cet événement il se prépare, enfin à mon niveau et au niveau des gens avec qui j'ai pu discuter sur tout ce qui allait être logistique et solidarité d'hébergement, qui pouvait être accessible sur Paris et aussi bien le transport. Donc j'avais à peu près la notion des personnes qui allaient venir, de par les chiffres que j'avais et les remontées terrain de province. Donc je savais que ça allait être énorme, d'accord. Et à un moment donné, je me suis dit, il va y avoir un point de rupture. De quel côté? Aujourd'hui, je dirais qu'il y en a eu deux. En fin de compte, des deux côtés. J'ai senti samedi un point de rupture. Les gens n'ont plus peur. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Et de toute façon, au vu de ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, je crois qu'on est arrivé dans les convictions et le fait de manifester notre colère jusqu'au boutiste. Alors ça s'est passé par des violences sur les Champs-Élysées par une certaine catégorie de personnes, par l'acquiescement d'une autre catégorie de personnes, et de par le cri de révolution qu'on n'entendait pas aussi fort qu'on l'a pu entendre sur les Champs-Élysées. Donc je pense que là, ouais, nous, enfin non, alors peut-être pas, voilà, eux, nous on a passé un cap, les jaunes, et on a compris que le nombre fera la force, et que face au nombre, ils ne pourront rien faire. Parce que là, si on reprend le reportage que vous avez parlé, enfin qui a été diffusé, ils sont obligés d'aller chercher des policiers qui gardent des points névralgiques de la capitale, mais ils étaient 100 000 il y a 2 mois. Ils sont où les autres policiers? J'ai pas cru comprendre qu'il fallait aller les chercher auparavant. D'accord. Qu'en est-il de l'absentéisme? Qu'en est-il des arrêts de maladie que j'entends
vous
parler?
Vous pensez qu'il y a un point de rupture du côté des forces de l'ordre?
Et du gouvernement. Enfin, les forces de l'ordre aussi, parce que je crois qu'hier, il y a eu un 20e ou un 18e suicide, je crois. Ça s'appelle un point de rupture. Je pense que les gars, ils en ont marre sur le terrain, quand même. C'est pas facile ce qu'ils vivent. Et de l'autre côté, vous avez le point de rupture de la part du gouvernement qui apporte ces messages de répression, qui a juste pas compris que le peuple en a marre. Et qu'à un moment donné, à force de tendre depuis 4 mois la joue droite, ils ne veulent plus tendre la gauche, et que c'est eux qui vont commencer à distribuer parce qu'ils en ont pris pendant 40 ans. Ça veut dire quoi, ces réponses-là? Alors moi, l'image qui m'a fait le plus rigoler, c'est Castaner, petit, à côté d'Edouard Philippe, là, quand il faisait son discours.
Ouais,
d'accord, on fait sauter les premières lignes, d'accord, mais on va faire sauter bientôt la deuxième ligne, puis la troisième ligne, et qu'en est-il derrière? On va continuer, quoi qu'il arrive. Et moi, j'en appelle à tous les jeunes de ne rien lâcher, aussi bien sur la visibilité des manifestations le samedi que sur les différentes actions, comme on a pu être mené cet après-midi au sein du droit au logement, de se faire montrer sur tous les points où il y a des soucis aujourd'hui en France, où les choses ne marchent pas correctement, d'accord, de mener des actions de blocage, si possible. Bref, rester visible. Parce qu'il faut qu'il entende le message, Manu. C'est pas en tirant sur son peuple que les choses s'arrangeront, d'accord. Et moi, je finirai juste sur ça. On peut être le plus grand des démocrates, on peut être le plus grand des macroniens, d'accord. Je ne comprends pas, ces gens-là ne sont pas humains, de laisser faire un mec pareil, quoi. J'ai du respect pour la fonction de président, je n'ai pas de respect pour Manu, parce qu'on a un lien, tous les deux, aujourd'hui, et il faut qu'ils comprennent que je ne sais pas, quoi. En plus, enfin, il n'y a personne qui est à côté de lui qui lui dit « tu déconnes, garçon, quoi ». Tu déconnes, quoi. Parce que tout à l'heure, elle disait son peuple, aujourd'hui, c'est plus son peuple, hein. En tout cas, moi, je ne fais plus partie de son peuple. Le peuple.
Le peuple français.
Voilà.
Ouais. Votre interprétation sur cette obstination
je ne comprends pas qu'ils aillent comme ça. Et moi, j'ai noté une petite citation. C'est « Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé le demande aux autres. » Mais c'est vrai. Il rejette les fautes sur nous. Enfin, il ne se remet jamais en cause, ce type, quoi. Il est méprisant, arrogant et il manque de courage. Et ce manque de courage politique, c'est ce qui nous emmène dans cette spirale infernale. Et pour revenir sur ce que tu disais pour les forces de l'ordre, il y a Castaner qui est là. Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée, l'impunité zéro. Mais nous, les Gilets jaunes et le peuple entier, on lui dit, moi je dis, incompétence totale pour ce type. Incompétence totale. C'est-à-dire même pas zéro total. Rien. Et quand Edouard Philippe, on va envoyer les drones et l'armée. Mais c'est du jamais vu, ça. Ça veut dire que c'est super grave. Il faut alerter la population. Au secours. Il va nous envoyer l'armée. C'est-à-dire, ils sont déjà là par le fait des gendarmes. Mais là, l'armée, les militaires, quoi. C'est-à-dire l'opération Sentinelle, qui est super importante quand même dans le pays. Hein. Il y a des terroristes. Hein. Pas des gilets jaunes, hein. Des terroristes. Hein. Les vrais, ceux-là. Il leur laisse la place. Venez, les mecs. C'est ça qu'il leur dit? Non, mais on marche sur la tête. Ça ne va pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il laisse la place au terrorisme, les vrais. On n'est pas des hooligans, on n'est pas des gens comme ça. Et les vrais, mais, bah, ils vont rigoler, hein, les types. Super, on a la place. Pendant ce temps-là, il va buter les... Excusez-moi, ça m'énerve, j'ai des mots un peu crus, mais il bute son peuple, quoi. Le peuple français. Excuse-moi, Jérôme. Voilà, quoi.
Aïk Réunion, quel regard vous portez sur ces mesures répressives annoncées cette semaine, vous?
Jérôme a parlé de la rupture. Cette rupture, là où elle me choque le plus, c'est que nous avons quand même quelqu'un qui a été un champion de communication. En tout cas, il a fait toute une campagne présidentielle en usant des techniques de communication. On se demande quand même qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour ne pas avoir un seul discours d'empathie, en fait, ou de calme ou d'apaisement dans son rôle de chef de l'État. Je n'imagine pas cette situation dans aucun État, en fait, démocratique qui nous entoure, que le président de la République ne prenne pas la parole une seule fois en moins pendant 30 ou 40 ou une heure. Il a fait des chaînes où pendant 7 heures, 8 heures, il était à l'antenne. Dans d'autres pays, on nous envoie tout de suite à Chavez, à Poutine et à d'autres. En France, c'est tout à fait quelque chose de possible, aux frais de contribuables. Et je pense qu'il y a des dossiers là qui se préparent d'ailleurs sur ces questions-là, parce qu'il y a eu des interventions qui rentraient clairement dans le cadre des élections européennes aux frais du contribuable. Mais au-delà de ce manque
d'empathie,
au-delà de ce de cette communication catastrophique, il est entouré par des gens qui l'ont alerté. Alors ça, c'est un petit peu, on le sait pas forcément, mais moi, ça fait des semaines que je discute avec différentes personnes, que ce soit des députés, que ce soit des maires, que ce soit des gens qui l'ont entouré à un moment donné de manière très proche. Il n'écoute personne. Et c'est ça qui est grave et dangereux, c'est que même lorsque son entourage le lâche un petit peu et que lorsqu'il commence à se désolidariser, l'entourage du président de la République aujourd'hui panique. On a aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant à analyser sur le plan politique, on a quand même aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, une guerre des institutions. Quand on voit le Premier ministre refuser à se rendre au Sénat, finalement à dire que le Sénat est fait de l'instrumentalisation politique par rapport à l'affaire Benalla, alors qu'il est juste dans son droit de demander au Premier ministre de rendre des comptes sur cette affaire. L'affaire Benalla qui prend des ampleurs de plus en plus incroyables. Le préfet de police de Paris qui a été utilisé comme un fusible avait joué un rôle important dans l'affaire Benalla. Est-ce qu'il n'a pas été finalement viré gentiment pour profiter aussi de cette situation? Parce que clairement, depuis le début, depuis les premières semaines, que ce soit sur les plateaux, que ce soit en off, plusieurs responsables de syndicats de police nous ont clairement dit qu'ils reçoivent des ordres avec lesquels ils ne sont pas d'accord, mais ils les appliquent quand même, de parfois laisser faire pendant les manifestations. Alors évidemment, quand on dit ça à la télévision, classique, ça passe pas bien, mais sauf que tout le monde le sait. Quand on voit des images où vous avez une chose qui m'a vraiment choqué, c'était le jour où un manifestant avait perdu la main devant l'Assemblée nationale. Je sais pas si vous vous souvenez voilà. Il y avait une image incroyable où vous aviez des manifestants un peu plus, on va dire, énervés, qui étaient en train de bouger comment ça s'appelle. Voilà, les palissades. Vous aviez les médias qui étaient BFM, etc., qui étaient tout proches en train de filmer. Ils étaient à quelques mètres. Et puis, vous aviez quelques manifestants qui les regardaient de faire. Et là, on nous dit à la télévision, les policiers ne peuvent pas intervenir pour arrêter ça. Si vous avez un journaliste qui est à peine à un mètre et demi avec sa grosse caméra, avec d'autres médias qui sont là en train de filmer, les policiers peuvent tout à fait intervenir. Et des exemples comme ça, on a eu plein. La fameuse histoire où vous avez un casseur qui se balade sur tout Paris, qui casse tout et qu'on le filme tranquillement, on ne l'arrête pas. Donc je reviens à ce que je disais, c'est véritablement une stratégie qui est mise en place. Et c'est là où peut-être, on en reparlera certainement après l'émission, enfin après l'émission, pendant, après ce sujet-là, c'est très important que nous, on ait conscience qu'il y a un piège aussi qui nous est tendu. C'est-à-dire que si nous rentrons dans ce jeu, soit Macron, soit les extrêmes, et qu'on n'arrive pas à bien nous situer au milieu de ces choses-là, eh bien, je crains qu'une partie de l'opinion publique se fera avoir à ce piège-là.
François Boulot, est-ce que vous pensez, vous aussi, que sur la casse qui a eu lieu aux Champs-Élysées samedi dernier, il y avait une part de préméditation, au moins dans le fait de la laisser s'accomplir, alors qu'effectivement, on annonçait des black blocs de toute l'Europe depuis plusieurs jours déjà.
A priori, c'est effectivement les informations qu'on a pu avoir, que la casse, on a laissé faire pour ensuite mettre en scène ces violences. Et effectivement, on est face à une stratégie qui est claire, en fait, cette semaine, avec les mesures ultra-autoritaires et répressives, c'est la stratégie de l'intimidation. Ils veulent effrayer tout le monde, on a bien compris, pour que les gens ne viennent pas samedi. Et moi, il y a, au-delà de cet arsenal qui est déployé, il y avait ces formules déjà qui étaient utilisées par le président de la République pour dire que ceux qui viendraient manifester se rendraient complices du pire. Je crois que s'il y a une chose de certaine aujourd'hui, c'est que ce pouvoir est le pire que la Ve République ait connu. Et aujourd'hui, c'est la honte internationale pour le président de la République de se faire sermonner comme il l'est par les instances internationales. C'est la honte aussi dans notre pays, parce que moi j'ai honte, franchement, aujourd'hui, que quand je vois l'état de notre pays, j'ai honte de ce pouvoir en place qui ne veut rien entendre.
– Qui est complice.
– Et bien sûr.
– De par cette non-réponse politique et ce manque de courage, Il est complice.
Et sur la complicité, parce que donc, le pouvoir essaye d'amalgamer systématiquement aujourd'hui donc, les manifestants avec ceux qui commettraient des violences. Bon, moi, je n'étais pas au courant qu'on avait voté les pleins pouvoirs au président de la République et qu'il pouvait changer à lui tout seul le code pénal. Hein, parce qu'en droit pénal, il y a quand même un principe assez simple qui est celui de la responsabilité individuelle. Et donc, si on ne commet pas de violence, on ne peut pas être complice de celui qui a été violent. Donc, c'est dans cette stratégie d'intimidation, ça ne tient pas juridiquement. Et donc, ces gens-là, en fait, sont dans le mensonge permanent, simplement pour servir leurs intérêts. Et en fait, derrière leurs intérêts, c'est des intérêts de leurs amis, c'est-à-dire les ultra-riches.
Voilà. Alors, ça ne tient pas pénalement, mais il y a quand même des gens qui sont actuellement inquiétés par la justice, voire en prison, pour des délits qui n'ont pas commis et dont on les estime solidaires, d'une certaine façon.
On sait déjà qu'il y a eu les consignes illégales données par le parquet de Paris pour interpeller et enfin, mettre en garde à vue systématiquement tous les interpellés. Et ensuite, maintenir les gardes à vue quand bien même les faits ne sont pas établis. Et vous avez des gens aujourd'hui qui, même pour des bricoles, peuvent faire des gardes à vue jusqu'à 56 heures. Et j'ai une collègue gilet jaune de Caen qui a fait 56 heures de garde à vue dans des conditions absolument épouvantables. J'avais également un collègue gilet jaune d'Evreux qui a été mis en garde à vue. Alors, il a fait 24 heures, il n'a pas eu le droit de manger, il n'a pas eu le droit de fumer une cigarette, il n'a pas eu le droit de boire, il était détenu dans une cellule, mais dans un état absolument épouvantable, je vous passe les odeurs et les conditions de salubrité. Et à la fin de sa garde à vue, il s'est entendu dire par un des policiers, « Bon, t'as compris, toi, mon bonhomme, estime-toi heureux, parce que sinon, il pourrait t'arriver la même chose qui est arrivée à Jérôme. »
Mais...
Voilà l'attitude aujourd'hui. Alors, je ne généralise pas, mais le problème, c'est que les policiers aujourd'hui, en fait, sont pris en otage parce qu'on les envoie, en fait, au casse-pipe. Et donc, eux-mêmes, là, sont épuisés et on est en train de monter un camp contre l'autre. Et ça, au détriment des intérêts du peuple, parce que nous sommes le peuple, policiers et gilets jaunes. Et la responsabilité en revient entièrement au pouvoir exécutif.
Il y a pour moi deux manipulations, effectivement François en a parlé, c'est l'image renvoyée à l'international de la France. On nous culpabilise en permanence en nous expliquant qu'à cause de nos manifestations et à cause de tout ce que nous faisons, nous envoyons une image catastrophique de la France à l'international, mais c'est l'inverse. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron a fait sa lettre destinée à l'Europe parce qu'il a un rêve de devenir le président des États-Unis d'Europe, il faudrait déjà qu'il assume le rôle préliminaire de chef de l'État quand même, il s'est fait ridiculiser dans toute l'Europe. Moi, j'ai plein d'amis en Italie qui m'expliquaient comment dans les médias italiens, on se moquait de lui et l'image qu'il renvoie de son exercice. Mais une deuxième chose que je voulais ajouter, c'est franchement, qu'est-ce qu'il a fait une seule mesure d'apaisement. Non seulement pas de discours, amnistie, vous savez, c'est quelque chose qui a été pratiqué déjà dans ce pays. L'amnistie existe.
Je rappelle que le média est porteur d'une pétition sur l'amnistie des Gilets jaunes. Parfait. Vous pouvez la signer sur nos réseaux, vous pouvez la signer en ligne dès ce soir.
Parce que finalement, quand on veut apaiser les choses et qu'on a les moyens juridiques ou les moyens de communication, les moyens moraux pour le faire, eh bien, pourquoi il ne s'en sert pas de ces moyens pour justement apaiser les choses? Et la troisième chose importante, c'est que aujourd'hui, Emmanuel Macron, enfin samedi surtout, il s'est rendu compte que ce qu'il a tenté avec le grand débat n'a pas marché. Parce que son objectif était d'endormir les gens, de faire croire que le grand débat est une énorme réussite. Juste sur les chiffres, lorsqu'on m'explique qu'il y a eu 1 million de contributions, pour moi, 1 million de contributions sur 2 mois de communication exceptionnelle, avec les moyens qui ont été mis en place, il a échoué là-dessus. Et on voit qu'il
va faire le bilan du grand débat.
Il commence à dégringoler, il recommence à dégringoler dans les sondages. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie panique au sein du gouvernement parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de solution. Mais j'ai entendu François le dire très bien sur un autre média, mais les solutions, on leur a apporté des solutions. Elles sont très simples, ces solutions. Donc aujourd'hui, au lieu de mobiliser toutes les forces de l'ordre, qu'eux, ils ne respectent pas, parce que s'ils respectaient les forces de l'ordre et s'ils respectaient les familles des forces de l'ordre, eh bien, au lieu d'envoyer les forces de l'ordre finalement à tirer sur leur propre peuple, parce que les gendarmes ou les policiers, à la base, quand ils se sont engagés, ils ne se sont pas engagés avec l'objectif de tirer contre leur propre peuple. Ils se sont engagés pour défendre un ordre de paix, etc. Eh bien, s'ils respectaient les forces de l'ordre, qu'ils disent que nous, en méprise, eh bien, ils apporteraient des réponses politiques de fond qui feraient que tout le monde serait tranquillement en train de faire sa vie, parce que je ne crois pas, et là, il y a beaucoup de gilets jaunes, je ne crois pas que ça nous amuse, en fait, depuis 18 semaines, sacrifier, je vais faire cet lapsus souvent encore, 18 semaines, sacrifier nos week-ends et nos semaines à aller dans la rue, après, enfin, voilà, tous les sacrifices que nous avons tous faits.
Alors, on le voit, malgré le temps qui passe, malgré les nouvelles mesures répressives mises en place, le refus de la politique gouvernementale reste intact chez les Gilets jaunes, de même que la détermination. Alors, comment peser par-delà les manifestations? Quelles actions nouvelles engager? Quelles stratégies mettre au point pour appuyer ces démonstrations dans la rue? Ce sera la deuxième partie de notre soirée. Alors, on le sait, le printemps est en France normalement une période propice aux mouvements sociaux. Et quelles que soient les menaces du gouvernement, il semble difficile d'imaginer de revenir à l'état politique antérieur au mouvement. Chacun le sent bien. Alors, j'ai envie de vous poser la question, François Boulot, par exemple, comment vous imaginez la suite?
Alors, je voudrais déjà, avant de proposer, répondre peut-être à un moyen qui aujourd'hui est dans la tête dans beaucoup d'esprits, qui est celui de la violence. Il y a beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui qui effectivement en viennent à se laisser aller à l'idée de la violence ou de l'acceptation de la violence. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est de parler du traitement médiatique qui est absolument insupportable dans les chaînes d'information continue parce qu'ils nous ont montré le Fouquet's là pendant 4 jours et ils disent pas un mot des blessés. Moi, j'ai pas pleuré pour le Fouquet's, ça c'est clair. Mes larmes, je les ai eues pour Jérôme, quand il a perdu son œil. Là, j'ai été bouleversé. Et pour tous ceux qui ont été blessés. Oui, ça me bouleverse de voir ces images. Et on a l'impression qu'ils ne les regardent pas, qu'ils ne les voient pas ou qu'ils ne veulent pas les voir. Et les médias, a priori, leur rôle est quand même d'être informés des faits qui se déroulent. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas connaissance de ce qui se déroule dans le pays. Donc ça, c'est insupportable. Et je comprends par conséquent la colère qu'il y a, qu'on a tous en nous aujourd'hui, la rage même, d'être face à un pouvoir exécutif aussi sourd à ces violences et à la misère que connaît le pays, alors qu'il y a des solutions si simples pour améliorer la vie des gens. Et donc je vois bien le lien extrêmement ténu qu'il y a entre la colère et le passage à la violence, ou au moins à l'acceptation de la violence. Et ça, c'est l'émotion et je la comprends. Mais ensuite, il faut passer à la raison. Et si on raisonne, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est un piège de tomber dans la violence, parce que si on fait le bilan depuis 4 mois, qu'a-t-on obtenu? Rien. Zéro. On n'a absolument rien obtenu par la violence. On a eu la répression policière et judiciaire, on a eu la loi anti-casseurs, et maintenant on a l'armée dans la rue samedi prochain. Et pendant ce temps-là, en plus, ça leur permet de faire diversion, parce que au moment où le samedi, on a eu les images de la violence, on avait la loi Pacte qui a été votée avec la privatisation d'Aéroports de Paris, la privatisation de la Française des Jeux, privatisation d'Engie, d'électricité, etc. Enfin, ils ont passé une loi absolument incroyable et du coup, dans une indifférence absolument générale. Donc, moi, je crois véritablement que la violence est une erreur, et je vais laisser la parole, mais je reviendrai après sur, à mon avis, les moyens qu'il faut mettre en œuvre désormais pour gagner le rapport de force politique, parce qu'il s'agit bien d'un rapport de force, mais je pense qu'on y arrivera par le pacifisme et pas par la violence.
Alors, Jérôme Rodriguez, ça fait bien longtemps que vous appelez les Gilets jaunes à ne pas basculer dans la violence.
Oui, mais si je reprends la question de la stratégie à adopter dans le futur aujourd'hui, je pense que j'ai laissé parler François sur la violence, je rejoins son discours, donc je pense que ce n'est pas utile que je revienne de là-dessus, puis tout le monde connaît ma façon de penser sur ça. Maintenant, je la comprends et je l'entends, je dirais juste ça, de la part des Gilets jaunes. Si stratégie doit y avoir aujourd'hui, c'est, je pense qu'il faut construire. Il faut continuer à construire les Gilets jaunes, surtout les domaines sur lesquels on veut du changement, tous les domaines sur lesquels on revendique. Et avant de construire, ça passe par fédérer. Je l'ai dit souvent, chez les Gilets jaunes, il y a des phénomènes de groupe. Des groupes Facebook, des groupes ronds-points, des groupes péages, des groupes m'as-tu vu, des groupes je suis là, j'aime le rose, j'aime le vert, enfin bref. Donc ça, il y a les phénomènes de groupe. Aujourd'hui aussi, dans certaines corporations syndicales, il y a du gilet jaune. Mais ça reste fébrile. Ils sont là le samedi, mais on ne voit pas le reste de ces corporations. Donc moi, j'en appelle à faire en sorte qu'on se fédère les uns les autres, si on se souvient de pourquoi on est descendu dans la rue le 17 novembre. parce que je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et dans un premier temps, c'était le fameux pouvoir d'achat, mais qui en découle beaucoup de choses, comme la dignité humaine, comme le fait que tout le monde puisse être servi à juste valeur, aussi bien les retraités que les handicapés, que les chômeurs, que tout le monde puisse être, vivre au moins décemment en France, parce qu'on a tendance à le perdre. Et c'est pas en se faisant déjà, nous, la guerre. Pourquoi on se fait la guerre? Parce que ça fait 40 ans que le gouvernement cultive ce terrain, de faire en sorte de ne pas s'entendre, de ne pas s'organiser, d'en avoir rien à foutre de ce que peut faire le voisin. On le redécouvre aujourd'hui. Mais il y a encore, on peut encore mieux faire pour aller chercher tous les autres, les uns derrière les autres, pouvoir s'expliquer, discuter, fédérer autour de nous, pour pouvoir construire un projet d'avenir, l'avenir que, aujourd'hui, pourquoi on est dans la rue. Et je pense que c'est ça la stratégie. Laissons tomber un peu les groupes, laissons tomber un peu les ronds-points. Moi, j'appelle ça des petites guerres féodales, d'un rond-point à l'autre, d'accord? J'ai quelques termes que j'utilise en assemblée que je ne vais pas utiliser ici, parce que ça pourrait parler...
Allez-y, on est curieux de les entendre.
On va arrêter de jouer à celui qui a la plus grosse, quoi. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on se bat tous pour la même chose. Ayons accès à ce que l'on revendique, puis après, on reparlera de celui qui a la plus grosse, il n'y a pas de souci. Mais on a du boulot d'abord, parce qu'il y a un sacré chantier. Ils nous ont laissé un sacré foutoir depuis 40 ans. Et j'avais conscience qu'il y avait un problème en France, d'accord? Mais j'en prends conscience encore plus de par le nombre de rencontres que je peux faire et de misère que j'entends. Qu'on entendait dans les médias, mais ça passe tellement vite, actualité sur actualité sur actualité. Mais là, c'est du concret parce que c'est des gens qui sont sur le terrain, qui viennent discuter avec moi. Alors, il y a des choses, j'ai peut-être pas les compétences pour répondre, ça c'est sûr. J'ai peut-être même pas les épaules pour les entendre parce qu'il y a des trucs, c'est quand même assez trash. Et c'est pour ça qu'il faut, je le répète, se fédérer. On se fédère, on construit derrière. D'accord? Et ça, il faut que tout le monde l'entende aujourd'hui. Et on en reviendra à l'union fait la force. Et on restera. Et là, ils pourront plus. Enfin, moi, de tous les mouvements sociaux que j'ai connus depuis que je suis gamin, c'est le nombre qui les a fait plier. La jupette en 95, le CPE en. Ça s'appelait la jupette. C'était Juppé pour les retraites. Non? Je sais pas. Voilà. J'ai été là.
Le fact-checking est dans la salle ici.
Ouais, je vois qu'il y a du mouvement, c'est cool. Bah alors, les jaunes, vous dormez ou quoi? Voilà. Enfin, pour rester sérieux, ça a toujours été le nombre CPE, 1 million de personnes, je crois, 1 500 000 personnes. Moi, je les ai vus passer devant mon magasin à l'époque. Il n'y a pas à tergiverser, quoi. Venez, rejoignez-nous. Si vous vous sentez concerné par le problème, rejoignez-nous.
Alors, c'est vrai que vous, Jérôme Rodriguez, vous avez apporté votre pierre à ce qu'on appelle la convergence des luttes. Vous avez, par exemple, fait tribune commune avec le comité Adama, et c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que la vraie question maintenant, c'est peut-être comment organiser la mobilisation de tous les pans du peuple qui ne sont pas dans la rue, ne sont parfois jamais descendus dans la rue depuis le début du mouvement, néanmoins sont, des soutiens silencieux. C'est 86% de personnes que j'évoquais dans ce sondage via Voice qui est tombé hier et qui sont pour des réformes profondes économiques et sociales du pays, ces gens-là, comment les toucher? Comment les faire se mobiliser?
Là, je reviens sur le fait que la peur n'évite pas le danger. C'est des gens qui ont eu peur. Cette entreprise de peur qu'a mis en place le gouvernement, ça a touché beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir peur. De toute façon, si on a vraiment touché le fond, on ne peut que remonter. Donc venez. Venez, il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est aujourd'hui, si on en est là, c'est que c'est le gouvernement qui a peur. Pour agir de la sorte comme il agit, d'accord? Moi, il y a une question que je me pose, et je ne sais pas si ça se posera dans ce débat, c'est pourquoi ils font ça? Parce que ça, c'est quand même inquiétant. Mais pourquoi ils en viennent à là? Moi, j'ai des papis de 85 ans, en particulier le mien, qui fait des parallèles avec... Parce qu'eux ont l'histoire. Nous, on a l'actualité, aujourd'hui. On a des bribes d'histoire apprises en 3e, 5e, enfin bref, collège, lycée, si on veut. Mais eux ont la vraie histoire. Et ils font des parallèles avec ce qui s'est passé auparavant. Alors on exagère ou on n'exagère pas, mais ça donne à réfléchir. Et c'est pas que mon grand-père qui me dit ça à la larme à l'œil. C'est plein de papis que je croise dans la rue et de mamies. Eux, et quand ils viennent vous voir, ils me disent « ça fait du bien, vous avez crevé un abcès ». Il faut les écouter, ces gens-là. Parce que c'est l'impression que ça donne. Moi, je vais exagérer, d'accord? Et puis je laisserai la parole. L'armée, elle est de sortie. Et il y a longtemps que je dis dans le mouvement que chaque défilé militaire que j'ai pu voir à la télé, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, d'accord? Il reste stoïque face au passage des troupes. Les deux derniers, vous avez Macron, il a un sourire. Regardez les images, hein. Il a un petit sourire. Et allez, je suis fou dans ma tête. Je me dis, je vais faire quoi avec mes petits jouets de plomb, là, mes petits soldats de plomb, je vais en faire quoi? Bah là, on le sait aujourd'hui. Il va en faire quoi? Il va se faire plaisir, apparemment. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Qu'on me donne la date de la dernière fois où l'armée est rentrée dans Paris. C'est un peu le principe, d'accord? Mais pourquoi ils étaient rentrés dans Paris déjà à cette époque-là? Et pourquoi aujourd'hui ils rentrent aussi dans Paris?
Moi, je voulais réagir sur ce que a dit Jérôme, parce que je m'inscris à 100% dans sa volonté de fédérer, de construire. Maintenant, je suis désolé, je vais un peu casser l'ambiance, mais j'aimerais bien qu'on se fasse aussi à un moment donné, au bout de 18 semaines, qu'on soit capable de voir aussi les erreurs qu'on a tous faites. C'est-à-dire que cette idée qu'il faudra à un moment donné que, évidemment, déjà en termes d'organisation, on a je ne sais pas combien de groupes, des centaines de groupes Facebook, chaque groupe Facebook a je ne sais combien de modérateurs, la communication se fait évidemment de manière spontanée, cette spontanéité a été la force de ce mouvement. Donc on ne peut pas la remettre en cause complètement, le fait que c'est parti de tous les côtés, de manière spontanée, etc. Maintenant, ça fait quand même presque 2 mois que il y a eu au sein du mouvement des gens, et j'en fais partie, qui ont essayé de plusieurs fois appeler à que justement on prenne conscience qu'il faudra à un moment donné se structurer. Alors l'idée, c'est que à partir du moment où on parle de fédérer, de construire, de se structurer, il faut qu'on soit tous capables aussi de se mettre autour de la table, de discuter sur ce que nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand j'ai vu parfois la violence avec laquelle, lorsqu'on n'est pas d'accord avec une position, on refuse tout de suite le dialogue et la discussion, on arrive dans des positions où même les gens qui ont pris peut-être des décisions qui étaient peut-être mauvaises se retrouvent dans des situations où ils sont complètement... il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discussion. Moi, je pense que si on veut fédérer et rassembler, déjà, il faudrait que nous, on soit capable de dépasser nos clivages et qu'on soit capable aussi... Jérôme fait partie des, on va dire, des personnes qui n'ont jamais eu de groupe, qui n'ont jamais eu de... voilà, il a toujours été quelqu'un qui s'adressait à tout le monde, et ça, j'apprécie beaucoup, mais... Ce n'est pas le cas de tout le monde, et c'est des choses...
Je vous redis, parce ouais. que par rapport au phénomène de groupe Facebook, moi je tiens juste à dire une chose, c'est un outil, ce n'est ouais. pas une finalité dans le combat qu'on mène.
Exactement.
Tout simplement. C'est bien qu'on ait des groupes, mais à un moment donné, les groupes peuvent aussi se fédérer. Voilà, je vais finir.
Juste pour poursuivre, donc ça fait 2-3 mois qu'on a essayé de prôner l'idée que toute lutte sociale, qu'elle soit celle que nous sommes en train de vivre ou que d'autres, c'est utile d'avoir deux axes de travail. C'est-à-dire avoir l'axe de travail de la mobilisation du terrain et avoir l'axe de travail plus structuré, plus constructif, plus institutionnel, etc. Parce que c'est complémentaire. Et rejeter l'un par l'autre, et ne pas vouloir dialoguer, ne pas vouloir communiquer, parce qu'il y a des préjugés, ça, c'est quelque chose de négatif. Et la deuxième chose, très importante pour moi, c'est de se dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on s'adresse aux Gilets jaunes. On doit s'adresser à tous les Français.
Et, voilà, et là c'est aussi... c'est la question que j'aimerais qu'on aborde et qu'on ouais, a commencé à aborder avec Jérôme. Comment mobiliser les soutiens silencieux? On sait que le mouvement est populaire et reste populaire en dépit de la diabolisation forcenée qui a eu lieu dans les médias.
Justement, cette diabolisation...
C'est ceux qui sont d'accord avec nous, les silencieux qui n'ont peut-être pas forcément d'avis ou ceux qui sont contre.
Qui sont avec les Gilets jaunes, mais qui ne descendent pas dans la rue.
Si vous me permettez, juste, je vais pas monopoliser la parole, juste là-dessus, c'est vraiment le travail qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur et qu'on a commencé à faire depuis déjà un mois, justement s'adresser principalement à l'ensemble de l'opinion publique. Pour faire ça, c'est très simple, l'opinion publique, a été, en tout cas moi je parle beaucoup avec des gens qui ne sont pas forcément des Gilets jaunes, qui n'ont pas forcément été sur les ronds-points, etc. Eux, on peut les attirer si justement on est un peu moins dans quelque chose qui peut paraître de l'extérieur, quelque chose de sectaire et de fermé, voyez. Moi j'ai eu des gens en face de moi qui me disaient tu portes pas le gilet jaune, tu es pas gilet jaune. Tu vois, il faut qu'on sorte de ce genre de choses parce qu'on ne changera pas la France uniquement en s'appuyant sur des gens qui
Et je les salue et je les respecte, et grâce à eux qu'on est là, uniquement sur les gens qui ont été sur les ronds-points. Il y a tous les jours, à chaque fois que je suis à Paris ou à Toulouse ou à Lyon, etc., il y a je ne sais combien de personnes que je croise qui me disent « on est d'accord avec vous ». J'ai dit « vous êtes sorti ?» Non. « Vous êtes venu sur le rond-point ?» Non. « Je ne peux pas parce que je suis taxi, parce que j'ai mon commerce à tenir, parce que je suis femme au foyer, parce que je suis handicapée, parce que si… » Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Est-ce qu'on leur dit « finalement, vous n'êtes pas les gilets jaunes, vous ne nous intéressez pas » ou au contraire, on essaye de créer les conditions pour que ces gens-là se sentent avec nous réellement?
Alors, Nathalie, ces gens-là, comment les mobiliser selon vous?
Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu dis on commet des erreurs. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne commet pas d'erreurs. Le mouvement, il a 4 mois. Les autres, ça fait 40 ans qu'ils gouvernent. On ne peut pas, en 4 mois, être... Non, mais tu vois?
Non, mais on apprend.
Mais on apprend très vite. Regarde, en 4 mois, ce qu'on a réussi à faire. Moi, je trouve ça super. C'est un mouvement spontané. C'est des opprimés, des maltraités de la vie. On est tous sortis. On est des hommes et des femmes debout. Mais merde, quoi. Tu dois pas dire que c'est une erreur. Enfin, moi, je suis pas d'accord.
Pas dit que c'est le mouvement qui est une erreur. Je dis
oui, non, mais quand tu dis on a commis des erreurs, comment tu veux qu'on n'en commette pas? C'est logique qu'on en commette,
mais
regarde.
Il faut les regarder en face.
Mais la plus grosse erreur, c'est ce gouvernement. Punaise.
Non, mais ça, c'est...
Mais ils n'ont aucun courage.
Ça, c'est autre chose.
Le courage, c'est la première des qualités humaines. Ils n'ont aucun courage. Quand tu as du courage, tu as toutes les autres qualités qui arrivent avec. Ils n'ont pas de compassion, ils n'ont rien. Tu vois le président, on dirait un masque. On dirait qu'il est à Grévin. Ça va pas.
Non, mais je suis pas d'accord. C'est une habitude dans ma vie. Lorsque j'aime quelqu'un, je suis exigeant avec lui, tu vois. C'est-à-dire que je pense que
voilà, je pense que j'ai rien contre toi. Je te connais pas.
Voilà. Heureusement.
Mais je te dis ce que je pense.
Oui.
On va fédérer, c'est sûr. Mais en 4 mois, tu peux pas nous demander d'avoir des super trucs. Et les guerres de clochers, comme tu dis, c'est partout dans la vie. C'est pas que chez les gilets, quoi. Tu vois?
Je suis d'accord avec ça. C'est il faut être capable de dépasser ces clivages-là.
Dépassons-les en donnant la parole à François Boulot. Comment ces gens, cette majorité favorable aux gilets jaunes, mais qui ne descend pas dans la rue, qui ne pèse donc pas véritablement sur le mouvement, comment la mobiliser?
Alors, moi, je voudrais juste prendre du recul sur la stratégie, mais je vais finir par répondre à la question. Il y a, je pense, dans la stratégie, un plan A et un plan B. Le plan A, c'est gagner le rapport de force politique maintenant pour faire céder le pouvoir et qu'on retourne aux urnes par soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit une démission du président de la République. C'est ce à quoi on doit aller travailler et c'est ça qu'on doit obtenir. Le plan B, effectivement, c'est à terme que nos idées gagnent les élections. Et quand je parle des élections, c'est dans 3 ans, c'est les élections nationales. Simplement, avec la puissance de feu médiatique des médias traditionnels pour manipuler l'opinion publique, j'ai pas envie de prendre le risque d'attendre 3 ans. Et en plus, parce que pendant les 3 ans, ils vont continuer à casser le pays, ils vont continuer
beaucoup
à privatiser.
Beaucoup de dégâts peuvent être encore.
Exactement, ils vont faire la réforme des retraites, l'assurance chômage, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà pauvres seront encore plus pauvres. Et donc, est-ce qu'on aura les moyens ensuite véritablement d'infléchir la politique et notamment est-ce qu'on aura encore des moyens stratégiques pour sortir des traités européens? Moi, je me pose sérieusement la question. Donc, j'ai envie de stopper et de briser le quinquennat le plus vite possible. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, évidemment, on parlait de la violence et la violence, évidemment, a effrayé les gens qui auraient pu ou se mobiliser d'ailleurs avant. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux parce qu'ils ont eu peur. Et moi, je les comprends, je comprends bien. Je veux dire, ils peuvent avoir des familles, etc. Et donc, je ne veux pas leur jeter la pierre. Non. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est avoir à l'esprit quels sont les piliers sur lesquels repose le pouvoir. Les médias, la police. Il y en a un qui se retourne, c'est fini. Parce que si les médias arrêtent de relayer complaisamment la propagande gouvernementale en nous expliquant qu'avec le grand débat, ça va être formidable, etc., eh ben, l'opinion publique, elle va se retourner. Parce qu'en fait, on parle beaucoup des gens qui regardent la télévision, tout simplement, et qui s'informent par la télévision. Donc, si les médias se retournent, c'est terminé. Je ne vous dis pas que j'ai beaucoup d'espoir d'arriver à retourner Jean-Michel Apathy ou Patrick Cohen. Bon.
Je pense que c'est un travail de fond et de long terme.
Mais deuxième pilier, la police. Et donc là,
peut-être désespéré, mais...
Deuxième pilier, la police. Bah, en opposant un camp à l'autre, comme on est en train de tomber dans ce piège-là, on ne va pas les retourner. Parce que ces gens-là sont des humains. À un moment donné, ils se prennent une pierre. Bon, ils se disent, bon, non, mais c'est des gilets jaunes, ils sont sympas, on est avec eux. Bon, au bout de la 3 ou 4e, à un moment donné, ils sont comme tout le monde, ils commencent à en avoir marre. Puis ils ne voient plus qu'en face, c'est un être humain et c'est leur frère d'armes. Donc, il y a ça. Et ensuite, ce n'est pas un pilier, mais presque. mais c'est un des moyens d'action, c'est l'économie. On en revient toujours au même. Et en fait, derrière l'économie, il faut bien faire la distinction. Les PME, ils n'en ont rien à faire. Ça fait des mois que, par les manifestations qu'on a pu faire, malheureusement, les PME, les commerçants, etc., en souffrent. Ils n'en ont strictement rien à cirer. Donc, ce qu'il faut taper, c'est les entreprises du CAC 40. Voilà ce qu'il faut arriver à faire. Alors, ça peut être par la grève, ça peut être par le boycott et ça peut être par des actions de désobéissance civile.
On va parler justement de la grève et de la grève générale parce que vous en aviez lancé l'idée, François Boulot. C'était une manière d'installer, bien sûr, cette idée dans le pays et celle-ci n'a pas encore pris, comme on peut le voir. Mais l'expérience historique montre que c'est généralement la seule façon pacifique de faire tomber un gouvernement. On va tout de suite regarder l'appel, François Boulot, que vous aviez lancé sur notre antenne, sur le Média TV, le 27 janvier dernier, et on le commentera en plateau.
Nous appelons l'ensemble des citoyens français, salariés, intérimaires, fonctionnaires, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, chômeurs, retraités, professions libérales, étudiants, lycéens, artistes, intellectuels, à se mobiliser pour construire à compter du 5 février 2019 la grève générale illimitée. Nous déplorons que le pouvoir exécutif s'obstine à ne rien entendre des revendications portées par les Gilets jaunes et à conduire une politique injuste, rejetée par 75% des Français. Chacun a compris que le grand débat national ne constitue qu'une nouvelle stratégie de communication visant à anesthésier l'opinion publique sans qu'aucune mesure concrète ne soit adoptée à son issue. Le président de la République se refuse en effet catégoriquement à remettre en cause les dispositifs fiscaux adoptés au début de son mandat au bénéfice des 1% les plus riches, réforme de l'ISF, flat tax, exit tax et CICE. Il a confirmé également sa volonté de réduction des dépenses publiques et nous savons que dans sa bouche, celle-ci concernera nos services publics essentiels, la santé, l'éducation, la police et la justice. Plutôt que de tenter d'apaiser et d'écouter le peuple, le président de la République et le gouvernement n'ont fait que de jeter de l'huile sur le feu par des déclarations irresponsables. Foule haineuse, agitateur, sens de l'effort, cette stratégie du chaos a engendré 1000 blessés parmi nos policiers et nos gendarmes. 12 décès et 1800 blessés parmi les manifestants, dont près d'une centaine ont été mutilés, défigurés ou éborgnés. Pas un seul mot d'empathie à l'endroit des victimes n'a été prononcé à ce jour par ceux qui portent la parole institutionnelle. Les violences que connaît notre pays doivent cesser et nos revendications enfin accueillies. En conséquence, nous appelons l'ensemble des citoyens français, salariés, intérimaires, fonctionnaires, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, chômeurs, retraités, professions libérales, étudiants, lycéens, artistes, intellectuels, à se mobiliser pour construire à compter du 5 février 2019 la grève générale illimitée. Nous appelons l'ensemble des Gilets jaunes du pays et tous ceux qui voudront se joindre à nous à diffuser cet appel auprès de la population sur tous les réseaux sociaux et sur le terrain. Rond-point, entreprises, universités, lycées, établissements publics. Nous appelons également chaque citoyen à boycotter les grandes enseignes commerciales au profit des commerces de proximité afin de les soutenir en cette période de crise. À cet instant, chacun devra s'interroger en son fort intérieur s'il entend continuer à se soumettre aux injonctions d'un pouvoir devenu illégitime, dès lors qu'en abandonnant la poursuite de l'intérêt général, il a perdu de vue l'essence de son mandat, ou s'il est temps au contraire de reprendre enfin en main notre destin commun. C'est un sacrifice à faire aujourd'hui pour notre avenir et celui de nos enfants et petits-enfants. Ce moment est et doit être historique. Il est temps que la résignation change de camp et d'en revenir enfin au respect de l'article 2 de notre Constitution, le principe de la République et gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Magnifique appel. Alors, François Boulot, où est-ce qu'on en est de cette mobilisation-là ?
Écoutez, j'avais quand même peu d'espoir qu'on arrive à la grève générale dès le 5 février. On sait quand même par expérience que les syndicats sont quand même plus promptes à se mobiliser au printemps quand il fait beau et qu'il fait chaud. Et c'est vrai que nous, notre mouvement, se mobiliser un 17 novembre, ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais évidemment, on n'a pas choisi le moment, mais ça dit beaucoup de la détermination et du fait que les gens continueront. Parce que quand on a passé le temps, comme on l'a tous fait sur les ronds-points, où il faisait moins 4, moins 5, à se réchauffer avec les feux de palette et avec la fumée de palette dans le nez toxique, etc. Bon, les gens, dès le début...
C'est du vécu.
C'est ça. Donc, la mobilisation et la détermination, elle est là. Ensuite, ce qu'il faut, effectivement, c'est arriver à créer des convergences pour justement amener les gens qui sont dans leur canapé et qui ne sont pas forcément mobilisés. Donc, l'idée a été de lancer cet appel pour que le 5 février, mais également le 19 mars, cette semaine, on crée au moins des discussions, des réseaux, que les gens se parlent entre eux. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et le but, évidemment, c'est d'arriver, moi, je vise le mois de mai, le mois de juin, c'est ça qu'il faut obtenir, et créer déjà des convergences, des discussions. Ça a été aussi le sens de la participation à la marche pour le climat samedi dernier, pour essayer également d'amener ces gens-là et montrer qu'en fait, on converge totalement sur les revendications, sur l'injustice fiscale et sociale, sur la nécessité de la transition écologique et puis sur la nécessité d'une participation des citoyens à la démocratie. Bon, pour les Gilets jaunes, c'est la revendication spécifique du référendum d'initiative citoyenne, mais pour la marche pour le climat, c'est quand même plus de démocratie directe qui est réclamée. Donc, on converge sur les revendications. Il faut donc créer du dialogue et de la discussion pour arriver à fédérer, à mobiliser et parvenir à une grève la plus ample possible. Parce qu'en fait, quand on dit grève générale, ça peut faire peur, mais on n'a pas besoin que tout le monde s'arrête de travailler. Il suffirait simplement que la grève prenne dans les grandes entreprises et ça y est, c'est terminé. Parce qu'ils ne comprennent que cela. Il faut prendre de l'argent à ses amis. C'est la seule chose que le président de la République soit en capacité de comprendre aujourd'hui.
Alors, le problème, c'est aussi que, historiquement, on le sait, il est difficile de déclencher une grève sans l'appui des syndicats. La CGT est entrée tardivement dans le mouvement et comme un reculon. Est-ce qu'il n'y a pas une interpellation, Jérôme Rodriguez, à tenter de ce côté-là ? Appuyée et massive.
Moi, je l'ai fait plein de fois à l'occasion d'assemblée. La dernière fois que je l'ai fait, c'est jeudi dernier à la Bourse du Travail, en précisant que peu importe la couleur du gilet, d'accord, qu'il soit rouge, qu'il soit rose, qu'il soit bleu, qu'il soit jaune, ou qu'on en porte pas, si on se sent concerné par ce qu'on revendique aujourd'hui, pourquoi se faire ces fameuses guerres de corporations ? Ça représente quoi, les syndicats, en termes de pourcentage ? 6% de la masse salariale, je sais, non ?
Oui, il n'y a pas beaucoup de syndicats.
Voilà, 6 ou 8%, elle est là, la force.
Surtout du
coup. La force, c'est nous, quoi. Et on en voit beaucoup hein, dans la manif le samedi, qui sont désolés que les autres ne viennent pas, parce qu'on attend l'appel de M. Martinez. Voilà, mais voilà, qu'est-ce qu'il fait de plus ? Il vient 5 minutes en tête de cortège, apparemment, puis après, il s'en va. Il oublie qu'il y a les gens derrière. Nous, on marche avec les gens. On marche ensemble aujourd'hui. C'est ça qui fait aussi la beauté du mouvement, c'est qu'il y a, du fait qu'il n'y ait pas de leader, qu'il n'y a personne de représentant ou de porte-parole, c'est on marche ensemble. Là, ils attendent eux de marcher, qu'il y en a un qui se mette à marcher, quoi. Ça, c'est ça qu'on ne veut plus aujourd'hui. Et nous, on le représente. Maintenant, moi, j'en appelle à n'importe qui, parce qu'il y en a qui sont venus, ouais, comment ça, t'appelles les syndicats ? Mais avant d'être un syndiqué, c'est un mec, une femme, une famille, un budget, une âme, un humain. S'il a quelque chose qui le concerne sur le mouvement des Gilets jaunes, ou sur le mouvement sans préciser les Gilets jaunes, viens marcher avec nous, viens discuter, viens échanger, viens poser ton problème. Il n'y a que comme ça qu'on avancera.
Je voulais revenir sur la stratégie dont François a parlé. Là, c'est notre désaccord, on en a déjà parlé, mais c'est important d'en dire un mot. Lorsqu'on parle du fait qu'il faut casser ce quinquennat, alors l'appel sur la convergence avec les syndicats, etc., je m'inscris à 100% là-dessus, on ne peut pas être contre, mais quand on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale, là encore une fois, il faut regarder un petit peu l'histoire de que ce soit de la France, que ce soit ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des luttes sociales et qu'il y a eu réellement des renversements de régime ou de pouvoir, ça a profité derrière, pas forcément à ceux qui ont fait la révolution, ça a profité à ceux qui étaient organisés derrière et qui étaient prêts en fait à reprendre le flambeau et qui n'ont pas forcément fait toujours ce pourquoi la révolution était faite. C'est pour ça que moi je m'inquiète un peu de cette idée de séparer les choses. À partir du moment où on dit qu'on veut que nos idées gagnent en 2022, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on affirme que c'est un des objectifs. À partir du moment où on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale, de casser ce quinquennat, de l'empêcher en fait d'arriver jusqu'à fin de ses objectifs politiques, il faut avoir le courage à un moment donné d'assumer le fait qu'on fait de la politique. Ça, c'est une chose que je ne supporte plus, qui est pour moi démagogique, c'est de dire que nous sommes apolitiques. Nous sommes apartisans, mais nous faisons de la politique. Et déjà là-dessus, si nous arrivons en fait à évoluer sur ce point-là,
on évitera un petit peu des querelles inutiles parce que ces sémantiques-là font que il faut s'entendre. Moi, je pense que s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale aujourd'hui, enfin si demain matin elle a lieu,
on ne sera pas
du tout prêt réellement à cette dissolution-là. Qui va en profiter réellement de cette dissolution-là? Est-ce que les gens qui vont profiter de cette dissolution sont réellement les gens qui vont porter nos idées? Donc ça, c'est une question. Et puis l'idée de préparer la suite, elle se prépare dès maintenant. Donc moi, ce que je voudrais passer aujourd'hui comme message, de profiter aussi de cette antenne, pas forcément à vous trois, parce que Jérôme et François, on en a déjà beaucoup parlé, mais comprendre une chose, c'est que le mouvement que nous avons créé est tout à fait complémentaire avec le travail qui se fait. C'est-à-dire, il y a un travail qui est fait institutionnel et constructif vraiment sur long terme, et il y a un travail qui est fait dans l'immédiat. Et que si on arrive à cohabiter et à se coordonner réellement, et au lieu de ne pas s'entendre et ne pas dialoguer, je pense que la pire des choses qui peut arriver à Emmanuel Macron, c'est d'avoir en face de lui des gens qui sont capables de créer une alternative citoyenne équilibrée, déterminée, mais équilibrée, et qui n'apparaissent pas comme un extrême. C'est sa stratégie. Soit lui, soit les extrêmes. On doit construire quelque chose de différent.
Alors, vous me fournissez une magnifique transition vers la troisième partie de notre discussion, la politique. Le grand débat s'achève dans l'indifférence. Personne n'y avait cru, de toute façon. Les élections européennes, elles, arrivent à grands pas. Alors, que faire de la politique classique dans le contexte actuel? Faut-il boycotter le prochain scrutin européen, comme certains gilets jaunes en ont émis l'idée? Faut-il au contraire l'utiliser comme levier? Tout de suite, on en discute. Alors, on va tout de suite faire un sort au fameux grand débat. Le vendredi 15 mars a marqué la fin des débats locaux ouverts à tous et des contributions en ligne. Nous sommes désormais passés aux conférences citoyennes régionales. On va tout de suite regarder un tout petit teaser d'un reportage de Yanis Mamdi que le Média a diffusé hier soir et que vous pouvez bien entendu retrouver en ligne. Contrairement à ce qu'affirmait encore hier soir M. Guérini, délégué général de La République En Marche sur BFM TV, non seulement des millions de Français ne se sont pas emparés du grand débat, mais vous allez voir qu'il a même été très difficile d'en trouver 1400 et qu'il a fallu dépenser des millions d'euros d'argent public pour arriver à ce résultat. Tout de suite, on regarde le magnéto.
Depuis le lancement du grand débat national, un mot-clé domine le discours gouvernemental.
Il faut qu'il soit organisé avec des principes de transparence.
Ceci est fait de façon transparente.
D'assurer à la fois l'indépendance, la transparence.
C'est que tout doit être en transparence totale.
C'est même la première garantie affichée sur le site du grand débat. L'un des enquêteurs recrutés via Harris Interactive accepte de témoigner. Selon lui, les organisateurs des débats leur ont interdit de parler aux journalistes.
Il est en déplacement, vous venez de l'appeler dans la boîte?
Non, mais ça a basculé sur son portable.
Les personnes qui travaillent sur les conférences régionales citoyennes.
Non, vous verrez ça. Vous n'avez rien à faire ici.
Pourquoi on n'a rien à faire ici?
Parce que c'est privé ici.
C'est privé, mais vous travaillez privée. Pour l'État.
Pour quelle raison je répondrai?
Est-ce que vous vous rendez compte?
Pour quelle raison je vous répondrai?
Pourquoi une telle opacité? Selon notre témoin, la raison serait à chercher du côté du manque d'enthousiasme des citoyens à participer aux débats régionaux organisés par le gouvernement.
Voilà, donc c'est un reportage que vous pouvez retrouver sur le Média, un reportage de Yanis Mamdi. Pour la transparence, on ne sait pas, mais pour le pognon de dingue, on sait que l'opération a coûté entre 10 et 15 millions d'euros minimum, une belle somme. Le grand débat, François Boulot, ouais, qu'est-ce que…
Il y a tellement de choses à dire sur le grand débat national. Bon, on avait tout de suite compris que c'était une stratégie de communication pour essayer d'anesthésier l'opinion publique et essayer d'étouffer la contestation. On savait aussi que c'était totalement inutile puisqu'il suffisait de les écouter. Ils nous disaient on ne changera pas de cap, de toute façon, on ne détricotera pas ce qui a été fait. Le président de la République, il écrit dans sa lettre aux Français, je ne vais pas remettre en cause les dispositifs fiscaux, je vais continuer la baisse des dépenses publiques. Et on sait que dans sa bouche, c'est les services publics essentiels, police, santé, éducation, justice. Et puis, il avait écarté d'un revers de la main le référendum d'initiative citoyenne. Donc, on n'est pas tellement surpris que là, le gouvernement ne sache plus comment s'en sortir, qu'il est indiqué par la voix du Premier ministre que le risque déceptif est très important. Hein. Et alors, moi, j'ai participé, par exemple, et je veux le marteler, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va quand même essayer d'inscrire dans l'opinion des gens, à une émission qui était co-animée par Marlène Schiappa. Bon, elle a dû être déçue que je sois venu, parce qu'il y a plein de propositions qui ont été validées. Et donc, le CICE réservé aux PME, l'ISF, on le rétablit, mais on exonère à 100% pour les sommes qui s'investissent dans le capital des PME. Peine plancher de prison pour les fraudeurs fiscaux, ça, manifestement, ça ne lui avait pas plu à voir sa tête. Et la TVA, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Bon, on sait très bien qu'il n'y a pas une de ces mesures qui va être adoptée in fine. Et puis, enfin, sur la participation au débat, on nous parle d'un million de contributions. En fait, il y en a eu 160 000, ce qui est évidemment ridicule. Moi, j'ai fait un sondage sur ma page Facebook sur un projet de charte commune des Gilets jaunes. J'ai eu 90 000 votes. Je n'ai pas les moyens de l'État. Je ne suis pas passé en boucle pendant 6 ou 7 heures sur
vous
les chaînes d'information.
Vous n'avez pas appelé Harris Interactive pour voilà. Vous épauler.
Exactement, je n'ai pas eu 6 ou 7 heures de monologue pour pouvoir m'exprimer. Et puis, comment dirais-je, les commentaires complaisants des éditorialistes qui expliquaient à quel point il était courageux et fort parce qu'il arrivait à tenir autant. Moi, j'avais proposé que peut-être on passe carrément une étape supérieure, on met des haut-parleurs partout dans les rues, puis on se fait chanter la divine parole 24 heures sur 24 par le président de la République. Bon, le flop est total. Et donc, désormais, effectivement, ça va être un moyen de rebond pour la mobilisation, parce que je pense que beaucoup de gens répondaient à deux tiers qu'ils n'y croyaient pas, mais je pense que c'était plus pour adresser un message, et qu'au fond d'eux, il y avait quand même une petite voix en eux qui avait envie d'y croire, quand même. Il y a encore des gens qui ont envie d'y croire. Et donc là, quand ils vont voir que vraiment on s'est moqué d'eux, là, je pense que ça va remobiliser beaucoup de monde.
Alors, pour en venir aux élections européennes, le prochain scrutin français, comment éviter que ces élections ne viennent remettre en selle la politique politicienne traditionnelle, voire même qu'elles ne viennent renforcer la majorité présidentielle?
On va bien s'amuser. Il y a beaucoup d'actions à mener, là, prochainement. Il y a plein de meetings à aller visiter, à aller discuter et à se montrer. Ça va être sympa. De toute façon, je pense que ça fait déjà pas mal de mois qu'on les empêche de parler des européennes. Ce qui m'est arrivé sur 2-3 plateaux de discuter avec des journalistes, j'ai envie de leur dire, mais on n'est pas censé parler des européennes en ce moment, d'en prendre plein la tête pendant 4 mois, nous rabâcher que l'Europe. Là, je crois qu'on a... C'est quoi, c'est dans 2 mois maintenant ? Deux bons mois. Donc je pense qu'on a déjà mis assez le boxon là-dessus. Faut continuer. Et de toute façon, par rapport aux européennes, moi j'appelle, alors chose que j'ai rarement faite auparavant, mais j'appelle, enfin, une personne d'aller voter par rapport à ce qui s'était passé en 2005, mais j'appelle la majorité des gens à aller voter, enfin, que tout le monde aille voter. Que tout le monde aille voter, d'accord, mais qu'ils s'inscrivent dans un vote anti-Macron. C'est ça mon appel au vote. Si je fais de la politique, je suis content, parce que je voudrais pas qu'il se fasse élire. Parce que déjà que monsieur ivre de son pouvoir, s'il accède à l'Europe, il va marcher sur l'eau et là on va en prendre plein la tronche. Parce que c'est simple, il faut juste se dire un truc. Pour son projet de l'Europe, c'est LBD pour le peuple. C'est ça. C'est la seule chose qu'il faut lire chez Macron. D'accord ? J'appelle aussi les gens à s'investir dans le dépouillement, dans l'agissement au sein des bureaux de vote, de voir un petit peu ce qui se passe. J'appelle aussi les gens à faire attention à leur carte d'identité. Parce qu'il y a des décrets qui ont été passés pour faire en sorte que l'abstention soit la maximum possible, parce que l'abstention fera le jeu de Macron. Abstention, Macron, ça rime. D'accord ? Donc, allez vérifier vos cartes d'identité. Ils étaient même à deux doigts de refuser les permis à 3 volets, que moi j'ai par exemple. Donc, ils font tout pour que Macron passe. Et ça, il faut le savoir. Donc, après la répression, on se demande ce qui se passe aussi derrière pour faire en sorte qu'il gagne aux européennes. Donc, allez voter anti-Macron, faites gaffe à votre carte d'identité, investissez-vous dans les bureaux de vote pour voir ce qui s'y passe, même en tant que spectateur.
Alors, Aïk Chaignan, vous aviez pensé à un moment donné présenter une liste aux européennes avec Ingrid Levasseur, une liste évidemment très controversée, on le sait maintenant, au sein du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez pris du recul, vous avez disparu un temps, vous êtes revenu avec une nouvelle proposition politique, une alternative citoyenne, dites-vous, pour à terme, si j'ai bien compris, présenter des candidats à des élections dans le futur, mais en tout cas, vous avez sauté l'échéance des européennes.
Si vous me permettez juste, je corrige un petit peu votre résumé, parce que il y a quelques, voilà, quelques inexactitudes. J'étais le premier, et je l'assume tout à fait, dès le mois de décembre, le 5 décembre l'année dernière, j'ai posté un sondage sur la page que j'ai gérée à l'époque, et j'avais mis deux conditions pour savoir si les gens, sous ces deux conditions, pensent qu'il faut y aller ou pas. Sur 10 000 votants, à l'époque, j'avais 83% qui disaient « pourquoi pas, c'est une bonne idée, il faut y aller ». J'ai à ce moment-là fait une annonce en disant que ça peut être une opportunité. Je me souviens sur le plateau de Léa Salamé sur le 20h. Et c'est pas ça qui avait créé en fait réellement l'émeute, on va dire, qu'il y a eu par la suite. Parce que moi, je pense, et je continue à le penser, moi, je ne suis pas quelqu'un de lâche, entre guillemets, c'est-à-dire j'assume mes convictions. Je pense que dès le mois de décembre, parce que dans le mouvement, il y a vraiment des gens qui pensent qu'il ne faut surtout pas se structurer, il y a des gens qui pensent qu'il faut se structurer. Eh bien, parmi des gens qui pensaient qu'il fallait structurer quelque chose, je pense que si on avait préparé ça sérieusement, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, à partir du mois de janvier, je me suis rendu compte que j'ai été un aimant qui a attiré plein de gens qui avaient d'étranges intentions. Lorsque j'ai compris un petit peu comment les choses se mettaient en place, j'ai pris mes distances et maintenant je suis contre, tout simplement parce que j'ai compris que c'est juste impossible non seulement de faire réellement une liste commune et soutenue et approuvée par la majorité, mais en plus de ça, que le projet que nous voulions créer dès le mois de décembre, aujourd'hui on n'aura jamais le temps de le créer, et que ça décrédibilisera l'alternative citoyenne que je souhaite construire sur le long terme. Pour revenir sur le mouvement alternatif citoyen qu'on a mis en place, c'est très différent parce que là, on a commencé un maillage sur l'ensemble du territoire en créant des comités locaux, des assemblées locales et les citoyennes. L'idée, effectivement, c'est de construire un programme, un projet, de rassembler différentes associations, différents mouvements citoyens, différentes structures, etc., pour justement faire peser dans l'opinion publique les idées, les revendications d'une autre manière, voilà, d'une manière un peu plus institutionnelle. Derrière. Alors,
comment cette fois vous comptez construire la légitimité de cette formation ?
Mais la légitimité, vous savez, de cette formation, elle va se construire comme la légitimité de tout mouvement qui se crée. C'est-à-dire que, et là, je vais être très clair, je n'ai pas besoin, si vous voulez, dans ce pays, et heureusement encore, d'aller, si vous voulez, demander, parce que ça ne s'appelle pas Gilets jaunes parti politique, ça s'appelle Mouvement Alternatif Citoyen. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, moi, je l'ai dit clairement dès le début, je ne m'adresse pas aux Gilets jaunes, je m'adresse à tous les Français. Et parmi les Français, il y a énormément de Français qui ont envie de construire quelque chose de différent. Et on a aujourd'hui des Gilets jaunes et on a aujourd'hui des citoyens qui se rejoignent à ce projet-là et qui pensent que ça peut être intéressant de le construire dès maintenant. Tout en, on a des adhérents qui continuent à manifester, tout en participant à des réunions de travail, à des groupes de travail pour construire le projet. Donc c'est quelque chose qui est constructif et qui, à mon avis, dans l'avenir, servira, y compris toutes celles et tous ceux qui ont été dans la rue et qui peut-être aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de discours qui étaient très négatifs, ne se rendent pas forcément compte que ça peut nous servir par la suite.
– Jérôme Rodriguez.
– C'est de la politique. Et je crois que, on en a déjà discuté avec Ike, mais il y a un mot que… En tout cas, la base. Je vais juste revenir sur un truc. Quand j'ai dit que le Facebook, c'était un outil et non pas une finalité, la preuve en est. Il a fait un sondage Facebook pour faire une liste européenne. Ils étaient tous contents, ils ont répondu oui, mais c'est pas Facebook, c'est la base. C'est ceux qui marchent dans la rue, c'est avec eux qu'il faut discuter pour l'instant. C'est eux qui font le mouvement, c'est eux qui décident. Je finis juste, Ike. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, la pire journée, c'est quand vous avez déclaré votre liste. J'en ai pris plein la gueule. Parce que c'était la base, et moi, je côtoie la base. Moi, je marche avec les gens dans la rue. Je prends les discussions. Tu vois ? Il était là le problème. Et ça, on en a discuté, ils n'en voulaient pas. Et vous n'avez pas compris que le mot politique, ils n'en veulent plus aujourd'hui. Ça les débecte. Tu vois ? Maintenant, le truc Mac, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris, ça va servir à quoi ? J'en entends pas parler dans la manif, j'en entends pas parler autour des gens. Alors, si le projet, c'est de fédérer le maximum de gens autour de nous, c'est super. Mais moi, je n'en entends pas parler, quoi. J'en entends pas parler, donc je sais pas, dans le mouvement, si c'est pour amener un truc qui va amener un parti politique, comme on a pu voir avec ce qu'a fait Macron en 6 mois, voilà, je t'aime bien, mais ça va pas marcher, quoi. Parce qu'on retournera sur un schéma de politique, Et les gens aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de politique.
Je vous laisse répondre.
Et c'est ça qui crée des clivages.
C'est très important parce que je considère qu'à un moment donné, quand on parle de la base, il n'y a pas que des gens sur les ronds-points ou que des gens dans les manifestations. Et d'ailleurs, je vois comment certains sondages, mais moi je ne suis pas sur Facebook, Jérôme seulement, hein, excuse-moi, mais certains sondages comment s'effectuent aussi dans les groupes, pareil, je suis contre la démagogie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire de la politique en permanence tous les jours et de dire « la base ne veut pas de la politique ». Si la base ne veut pas de la politique, alors rentrons tous chez nous. La base ne veut pas, à mon avis, des pratiques politiciennes qui ont été mises en place, des démagogies qu'on a fait, de la manière dont ça a été fait, des citoyens lambda ne peuvent pas accéder à des fonctions, ou des citoyens lambda aujourd'hui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, etc. C'est de ça que la base ne veut pas. Quand la base, elle parle… –
trop vite et on ne veut plus de mais politique, on, parle pas on de... essaie de faire tomber cette politique mais toi, qui est aujourd'hui
tu
en place,
toujours,
c'était des gens en train d'en mettre une
de
en place. –
ce qui s'est passé il y a deux mois.
– Non, il n'y a pas trop.
Moi, je te passe de ce qui se passe aujourd'hui. –
Avant de parler politique, déjà faisons tomber celle qui est en place, parce que je pense que les gens de là-bas, c'est ça qu'aujourd'hui, ils veulent faire tomber d'abord ces gens-là.
– Ça, je te l'ai déjà dit, c'est un petit peu démagogique, parce qu'en réalité… On le fait déjà et justement, il faut préparer la suite tout en continuant à faire ce qu'on fait. Donc moi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit un petit peu réaliste et constructif. Il ne faut pas qu'on oppose ce qui se passe sur le terrain à ce qui se passe en dehors.
C'est ce que vous avez fait dès voilà. le début du mouvement.
Tu reviens, tu es très rancunier, tu reviens à ce qui s'est passé il y a un mois et demi. Voilà, l'idée maintenant, c'est de voir ce qu'on est en train de faire maintenant.
Quand même, quoi.
On a compris vos points de vue. Nathalie Lemoyle souhaite intervenir sur le mouvement d'Alternatives Citoyens.
Ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure sur la fédération, sur fédérer les gens. Tu vois, si tu restes sur une position.
On ne rejouera pas le match de la liste Ingrid Levavasseur.
Mais tu ne peux pas fédérer les gens uniquement Nathalie, en restant sur une position aussi ferme.
Oui, mais on ne parle pas politique pour l'instant.
Voilà.
Mais la politique, on en parle.
Je crois qu'on a compris le...
S'il vous plaît.
Allez, depuis
merci.
Depuis 40 ans, ça clive la politique.
En normand.
Il faut rentrer chez moi.
Nathalie Lemoyle.
Quand tu parles de politique, je te rejoins là-dessus sur le sens du terme politique. Je pense qu'il faut expliquer aux gens ce que veut dire politique. C'est la vie de la cité. Donc ça nous concerne tous. Mais on a tellement entendu politique, politique, politique. Les gens, ils savent même plus ce que ça veut dire. Ils en ont rien à foutre de la politique. Mais non, ils doivent en avoir quelque chose à faire. Parce que c'est notre vie. Donc ça, c'est le terme qu'il faut... Le terme, il est carrément normal et il est essentiel. Je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Mais le terme, il faut l'expliquer aux gens. Par contre, je pense que pour les élections, faire une liste, je pense que c'est sortir d'une servitude pour aller dans une autre. Tu vois ? Pour moi, il faut qu'on devienne des constituants. Il faut qu'on arrête d'élire, de mettre des gens en place pendant 5 ans, qui nous passent la pommade dans le dos, qui nous font les yeux doux, et qui après, pendant 5 ans... Voilà. Tu vois ? Je vais rester poli. Non, mais j'ai pas terminé. Excuse-moi, j'ai pas fini. Et donc, je pense que c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse le RIC. C'est super important. C'est la revendication primordiale et première qu'on doit faire. Il y a deux mesures essentielles, à mon goût, hein. Enfin à mon goût, et au goût de tout le monde je pense, mais pour moi ce qui est important, le RIC, parce que ça nous donne un pouvoir, le pouvoir politique durable du peuple.
Je ne m'explique pas le RIC, je me bats pour le RIC.
Je ne te l'explique pas, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui...
Non, mais... Comment tu le mets en place ?
S'il te plaît, je n'ai pas terminé.
Comment tu le mets en place ?
Attends. Tranquille, il y a le temps. On n'a que 4 mois d'existence, pitié. Mais ouais, tu sais, il ne faut pas s'emballer. Il faut prendre le temps, il faut prendre du recul. Voilà.
François Boulot voudrait réagir.
Pardon, je m'en prie, Nathalie.
Il y a donc deux choses qui sont à mettre en place simultanément. Oui. Le pouvoir d'achat et le RIC. Ça, il ne faut pas lâcher là-dessus. Voilà, j'ai terminé. Je m'excuse.
Non, je t'en prie. C'est bien qu'on ait parlé du RIC parce que je pense que c'est l'erreur fondamentale qui avait été commise par la liste menée par Ingrid Levavasseur, c'est d'appeler ça le ralliement d'Initiatives Citoyennes et le RIC. Et évidemment, ils essaient d'entrer dans le sillon du mouvement. Bon, et c'est assez cocasse parce que maintenant, Ingrid Levavasseur nous explique qu'elle est contre le référendum d'Initiatives Citoyennes, hein, omettant qu'elle était à la tête d'une liste qui s'appelait RIC il y a un mois ou un mois et demi. Bon. Sur la structuration, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Le mot politique, il faut le réhabiliter.
Bien sûr. Parce que c'est la
vie de la cité. Mais ensuite, il y a une distinction à faire. C'est Comment on en fait de la politique ? Voilà. Et là, il y a au moins deux possibilités. C'est soit on est dans l'action, soit on est dans le suffrage. Et les élections européennes, ça ne sert à rien. Ça ne changera pas notre vie, les élections européennes. Donc, il faut se structurer, mais dans l'action. Et je voudrais juste dire un mot par rapport aux élections européennes, mais avec un regard extérieur, pas interne au mouvement. C'est qu'on a un clip de campagne du président de la République qui est absolument sidérant, où il nous explique, avec une curieuse conception de la démocratie, qu'on n'a pas le choix. Hein, donc, il me semblait qu'à l'élection, on avait justement le choix. Bon, bah, lui nous explique qu'on ne l'a pas.
Donc, c'est un. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est lui
ou le chaos.
Voilà.
Ah. Ou le chaos.
Ou l'extrémisme, et, voilà. Ou l'antisémitisme, et donc, du coup, ou le racisme, ou le touléisme.
Et donc moi, je rejoins la consigne de vote de Jérôme, c'est tout sauf Macron. On va quand même essayer de lui mettre une raclée. Mais on va déjà préparer le plan B si d'aventure on a à perdre. Et écoutez, ça ne veut rien dire votre truc, parce qu'en fait, il y a eu une élection, c'était l'élection présidentielle, et si on l'analyse sérieusement, au premier tour, il avait 12% d'adhésion idéologique seulement. Il a fait 65% de deuxième tour face à Marine Le Pen, alors que Jacques Chirac avait fait 80% face à Le Pen. Et lui, il vient nous expliquer que c'est un résultat formidable et qu'il aurait un soutien idéologique. Il n'en a pas. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le sondage que vous avez rappelé. 86% des Français aujourd'hui souhaitent un changement de la politique conduite aujourd'hui par le pouvoir exécutif.
Juste pour ajouter un mot, je pense qu'au-delà des consignes de vote, etc., je pense qu'on peut vraiment profiter de ces élections européennes pour mener des actions qui concernent justement les traités européens, qui montrent en fait que les revendications que nous portons sont souvent sont en difficulté, entre guillemets, parce que les très certains nombres de traités européens ne permettent pas réellement que ce pays respire. Voilà, on l'étouffe.
Donc on ne peut pas changer de politique économique dans le cadre des traités européens. On appuie à maîtrise du budget, de la monnaie, de la politique commerciale.
Qu'on profite de ces actions-là. Et encore une fois, ce n'est pas contradictoire de structurer et être dans l'action et dans le terrain. C'est d'ailleurs l'action de quasiment tous les mouvements citoyens depuis que le monde existe.
– Alors, puisque vous parlez de sortie éventuelle de l'Union européenne, en tout cas de l'euro, de Frexit, Éric Drouet, que vous connaissez bien, Jérôme Rodriguez, a quant à lui indiqué que probablement il voterait Asselineau aux européennes. Ça vous inspire quoi ?
Grand bien lui fasse.
Grand bien lui fasse, c'est une réponse.
Pardon, excuse-moi, François. Non, voilà, après, c'est son choix. Mais je ne suis pas certain que dans la phrase, ça soit bien interprété comme ça. Quoi.
D'accord.
Moi, j'ai pas vu, mais je suis pas certain, je sais pas, mais je vous fais confiance. Mais je pense qu'il faut surtout ne pas donner de consigne de vote parce que on est apartisan ou transpartisan.
Il s'agissait pas d'une consigne, hein, il s'agissait d'un.
Oui, mais voilà. Quelqu'un qui aujourd'hui est une figure doit pas exprimer le vote qu'il va avoir. Il faut surtout pas le dire pour garder la neutralité et permettre de fédérer au-delà du clivage droite-gauche parce que c'est le principal apport du mouvement. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre aujourd'hui politiquement qu'en réalité, Macron jouera sur une chose. Le fait que les souverainistes, c'est-à-dire ceux qui veulent sortir des traités européens parce que c'est ceux qui nous condamnent à la croissance pour quelques-uns, à l'austérité pour tous les autres, sont éclatés à droite et à gauche. Et Macron, il joue là-dessus, il prend tout le centre, il vampirise tout le centre et c'est sur cette division qu'il joue. Et la chance, l'opportunité du mouvement, c'est de rassembler enfin tous les souverainistes pour enfin gagner les élections et donc pouvoir changer radicalement de politique.
Le mouvement est un politique apartisan. Le mouvement lui-même, je l'ai souvent dit, mais dans le mouvement, on est constitué de transpolitiques, transgénérationnels, transidées, transcroyances. Donc on ne peut pas se permettre, si figure ou représentant il y a, de dire voter pour un tel ou un tel. Parce qu'il y a un tel arc-en-ciel, un tel patchwork d'idées politiques ou pas, de croyances ou pas, d'âge ou pas, et de situations différentes, parce qu'il y a des gens qui sont très très mal, mais il y en a qui sont très très bien. J'ai croisé avec des gens, ils m'ont dit « tout va bien ».
J'en ai juste marre de solidarité.
J'en ai marre juste du système en place, eux aussi. Moi, il m'a dit « moi, je vais bien, je suis millionnaire ». J'en ai marre du système en place. Non, mais il me l'a dit. Vous voyez ? Donc ça montre le patchwork comme ça. Alors on est qui ? À la rigueur, bon, ok, le symbole des blessés, genre, super. Voter pour un tel ? Non. Je sais même pas déjà moi pour qui je vais voter. Oh bah, pas pour Macron, ça c'est sûr.
Ah bon ?
Alors, François Boulot, ce n'est plus un secret pour personne. Vous marchez sur l'eau en ce moment chez les Gilets jaunes. Vous êtes, avec Jérôme, une des figures les plus populaires, quasi charismatiques. Certains, dit-on, vous poussent même à vous engager dans une démarche politique de long terme et à vous présenter à terme à la présidentielle. Donc, Je vous pose la question, François, comment faites-vous face à tous ces assauts depuis quelques semaines ?
Écoutez, moi je vais être très clair, j'ai un plan de carrière très simple. Président de la République cet été, président des États-Unis à la fin de l'année.
Je pense qu'il y a une brèche là.
Je me calme un peu, j'attends 2022 pour mettre du monde. Hein, et puis après, il y a Mars, Jupiter, président de l'univers. J'ai le temps, j'ai 32 ans, donc effectivement. Non mais écoutez, moi j'ai déjà répondu à cette question en disant qu'il est possible que jamais dans ma vie je n'aille au suffrage, parce que ce qui m'intéresse c'est défendre mes convictions, qu'aujourd'hui, dans mon rôle aujourd'hui, je peux mener le combat des idées et le faire au-delà des étiquettes, et du coup le message que j'envoie, les arguments que je donne, il est reçu par les gens, après ils sont d'accord ou pas d'accord, mais il faut déjà gagner la bataille des esprits. Et après, puisqu'il y a eu une actualité hier matin, parce que Éric Drouet, sans me consulter, a lancé un sondage pour que je sois représentant et au départ unique du mouvement.
Le porte-parole du mouvement, oui. Une idée qui, là encore, fait vraiment débat chez les Gilets jaunes.
Oui, bien sûr. Alors,
certains sont tout à fait hostiles.
Bien sûr. Alors moi, je suis…
Votre personne, mais au statut de porte-parole,
j'ai été assez touché de la confiance qu'Éric Drouet me témoigne. Après, je pense que c'est une mauvaise idée. Je suis très réservé parce qu'il faut bien comprendre que le pouvoir exécutif ne veut pas dialoguer. Il ne veut pas négocier en l'État. Et donc, la question est celle de savoir quel est l'intérêt d'avoir un autre titre. Quel est l'intérêt d'élargir aujourd'hui le périmètre du mandat qui est le mien, porte-parole à Rouen, où je défends le mouvement dans les médias et je ne discute pas avec le président du gouvernement parce qu'ils ne veulent pas ça. J'ai déjà la tribune médiatique, donc je remplis déjà mon rôle et j'essaye de le faire au mieux. Et après, en fait, il y a un processus de désignation qui me semble impossible à mettre en œuvre pour aujourd'hui désigner des gens de manière légitime. Et déjà, il serait hors de question que je sois le seul représentant. Je pense qu'il faudrait un collectif parce que… en tout cas, il faut un collectif, ça c'est certain, parce que le mouvement, justement, est composé de diverses paroles et c'est ça qui est très important. Mais en l'état, moi, je ne vois absolument pas comment on peut faire un processus légitime. C'est qui les Gilets jaunes? C'est quoi le périmètre aujourd'hui des Gilets jaunes? C'est ceux qui sont sur le terrain? C'est ceux qui commentent sur Facebook? Enfin, on a quelque chose qui est mouvant. En revanche, et à défaut de pouvoir fédérer et désigner des messagers, c'est l'initiative qu'on a prise d'essayer d'établir une charte commune pour fédérer sur le message. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre de
cette
dire…
– Cette charte, oui. C'est un texte que vous avez rédigé en recueillant des propositions
au départ,
des Gilets jaunes ?–
Non, c'est un projet que j'ai fait tout seul. Je me désespérais…
– Où est-ce qu'on peut le trouver et le lire ?–
Alors, sur ma page Facebook, on peut trouver le lien là-dessus. Et donc, il y a eu ensuite 6000 commentaires. Et donc, on est en train d'amender le texte. On l'a fait également en lien notamment avec les personnes qui étaient déléguées par l'Assemblée des Assemblées pour se mettre d'accord parce qu'ils étaient aussi sur ce travail-là. Et d'ailleurs, le texte définitif s'appellera plutôt le préambule à la charte. Comme ça, ça permettra ensuite à qui veut d'avoir vraiment une charte qui est fondatrice. Mais en fait, le préambule aura vocation vraiment à répondre à la propagande médiatique. C'est-à-dire qu'il faut répondre à l'urgence. On n'a pas le temps d'attendre 6 mois parce qu'il nous explique qu'on est violent. Ben non, on n'est pas violent. Non, on n'est pas raciste et antisémite. Les revendications, elles sont floues. Non, elles sont très claires. Et comme ça fait, en tout cas pour ma part, 2 mois et demi que je me tue à les répéter en récitant toujours le même discours, j'en suis un peu fatigué. Ben écoutez, si vous avez des problèmes d'audition, maintenant vous allez les lire, les revendications. Et là, a priori, vous allez enfin pouvoir les retenir. Et donc c'est très important parce que ça va donner la force à tous ceux qui parlent sur les plateaux. Et quand on critique notre légitimité, parce qu'on me le dit, hein, mais vous avez que 200 signatures, c'est vrai. Mais quand demain on aura une charte qui aura recueilli des centaines et des centaines, je l'espère, de milliers de signatures, alors on pourra dire, voyez, nous on s'exprime dans le cadre de ce message-là. Et ça, c'est le mouvement des Gilets jaunes.
Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de porte-parole qui a émergé depuis quelques jours?
Porte-parole, le mot fait peur. Moi, je suis plus sur référent. D'accord, référent pour qu'il puisse remonter la voix. Moi, je serais dans l'idée, j'en ai déjà parlé sur plusieurs assemblées ou diverses provinces où j'ai pu aller me promener, d'avoir un référent par région qui puisse lui remonter les informations. Parce que, comme je le dis, là-bas, c'est principalement la province, donc leur voix porte énormément dans le mouvement. Donc, moi, ce serait une idée. Après, je suis pas, j'ai pas forcément de mots pour bien expliquer ça, mais je pense que ce serait l'idée, un référent par région pour remonter l'ensemble. Mais bon, il faut déjà faire en sorte que les ronds-points, tout le monde puisse finir pour pouvoir élire cette personne d'une façon ou d'une autre. Pour que, parce qu'on ne pourra pas rentrer à 300 000 à un moment donné, si contact il y a, chose qu'on n'a pas, comme il vient de dire. On pourra pas, enfin, tout le monde ne pourra pas rentrer dans l'Élysée, quoi qu'il advienne. Au niveau de la charte, François me l'a proposé. Il m'a laissé un petit peu participer avec lui au travail de la charte. En tout cas, moi, je la valide entièrement et je m'associe à François sur cette charte.
Nathalie Lemoine.
Moi, je pense, mais évidemment, qu'il fait bien son boulot. Elle était très facile. Je m'en doutais. Oh, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, il faut rigoler parce que avant de rigoler.
Ça m'a jamais vexé.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fabuleux ce que tu fais. En plus, tu connais la loi et tout, c'est fabuleux. Non, mais je lui passe pas de la pommade. Je suis pas comme ça, moi. Si j'ai les choses
attention,
à dire, je le dis.
Il va prendre le melon.
Non,
sérieusement.
Ce que je veux dire, moi, personnellement. Je trouve que c'est lui donner beaucoup de responsabilités sur les épaules. C'est super lourd. Et quand il y a des têtes à couper, s'il y en a une, ils la couperont. Moi, je pense que lui, il a une vie à faire. Il a 32 ans, il l'a dit. Est-ce qu'on peut lui donner ce poids? Est-ce que c'est raisonnable de lui donner un tel poids? Personnellement, je ne sais pas.
Il y a eu des généraux vintenaires dans l'histoire.
Non, mais après, voilà.
Je suis d'accord, c'est pour ça que moi je dis, de toute façon, si demain il devait y avoir une représentation, ça doit être collectif, il doit y avoir plusieurs personnes, parce que c'est clair, subir une pression pareille,
tout porter,
ça me semble... Non, mais on a affaire quand même à quasiment une dictature. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pas trop envie d'être tout seul.
Ça peut donner à réfléchir.
C'est
ça qui emmerde le gouvernement aujourd'hui. Et qui emmerde aussi les médias, c'est qu'ils n'ont pas une tête sur qui cogner.
Mais c'est ça.
Ils ont plein de têtes.
On ne va pas leur donner la sienne.
Et
alors, il y a quand même. C'est tout à fait vrai. Enfin, il y a quand même deux têtes sur lesquelles ils cognent en permanence. C'est Éric Drouet et Maxime Nicole. On pense à eux ce soir. Bah, ils ont vécu une semaine difficile.
Ils interprètent chacun des mots qui peut être. Voilà, eux, ils ont le droit d'utiliser tous les mots pour nous discréditer, nous insulter, antisémites, analphabètes. Vous avez M. Ferry qui dit mais tirez-leur dessus.
Exactement.
Et là, Éric, il dit soulèvement. Oh, mon Dieu, soulèvement. Allez hop, on porte plainte. Enfin, oh. Ils n'ont juste pas compris que nous, on parle français.
C'est clair.
Hein, on n'utilise pas des verbes, des beaux mots comme ça, que sur des espèces de réponses tunnels où plus personne comprend ce qu'ils ont à nous dire. Alors là, Fly a dit ça, Eric a dit ça. Voilà, puis moi, j'ai mangé un McDo ce midi, puis ils vont s'en... Enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, juste simplement. C'est des gars, ils font partie du mouvement. Ils sont tout comme moi, des relayeurs, d'accord. On relaie des informations, on relaie la base, on relaie des actions. Ce ne sont pas des initiateurs. Tout simplement. Donc moi, je les défends tous les deux parce que c'est des gens avec qui je travaille, avec qui j'échange et qui ne sont pas du tout l'image que les médias veulent leur donner. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils travaillent dans leur coin, on partage de temps en temps et on essaie d'emmener le mouvement, en tout cas de par la seule voix, la seule parole qu'on a, c'est de pouvoir relayer la parole des autres via le Facebook ou via la manifestation. C'est tout. Donc ils arrêtent 5 minutes.
Je ne sais plus sur quoi je voulais intervenir. Oui, simplement pour dire que je suis rassuré de ce débat-là, en fait, sincèrement. C'est la première fois que je viens chez vous. Déjà, on a le temps de parler beaucoup et c'est génial. Je suis rassuré parce qu'en fait, très sincèrement, il y a 2 ou 3 mois, on sentait qu'il y a des mots qui ne passaient pas du tout et qui étaient juste rejetés presque de manière allergique. Et en fait, finalement, aujourd'hui, j'entends parler d'une charte, j'entends parler d'élections, j'entends parler de structuration, j'entends parler de... Donc, c'est moi, je dis simplement, oui, mais ça, c'est parce que, justement, il y a encore certains qui sont dans une forme d'inconscience, peut-être. Maintenant, je pense que nous, il faut qu'on continue ce travail. Je parle du mouvement alternatif citoyen, du mouvement AC. Et l'idée, c'est que je suis certain que les fondations qu'on met en place... et qui s'inspire profondément de tout ce qui a été porté, c'est-à-dire de l'horizontalité, de la révocabilité, de la justice sociale. Toutes ces choses-là sont présentes à fond dans ce que nous sommes en train de faire. Je suis certain qu'à un moment donné, là-dessus aussi, des gens évolueront, parce que cette évolution, je la sens aujourd'hui sur le plateau. Il y a encore 2 mois, 3 mois, un débat comme ça, vous parleriez d'une charte, vous parleriez de structuration, etc. C'était compliqué. Donc,
là, c'est de la structuration.
Le,
dans l'action.
Oui, mais l'action.
L'urgence, c'est maintenant.
L'action,
ils sont épuisés.
J'ai toujours pas compris pourquoi on oppose cette action et cette structuration. C'est-à-dire que cette structuration dans l'action, elle existe aussi. Simplement, cette structuration dans l'action, elle ne se fait pas que au niveau des Gilets jaunes. Et c'est ça aussi intéressant. Tu as fait ce travail-là aussi. Et je pense que tu es aussi dans cet axe de converger, donc de rassembler aussi des associations, des mouvements, etc., qui ne sont pas forcément des Gilets jaunes.
Mais
on est d'accord, mais on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont complémentaires. C'est-à-dire il faut continuer la pression, il faut continuer la pression sur ce gouvernement en justement rapportant plus de force là-dedans. Ça passe par des convergences de lutte. Et tout en préparant la suite, parce que c'est automatique. Quand vous travaillez avec des gens, c'est de la logique, quand vous travaillez avec des gens sur un projet immédiat de lutte contre un pouvoir, sur des thématiques précises, etc., si vous gagnez cette lutte, vous menez cette lutte ensemble, c'est de la logique que derrière, en fait, vous êtes déjà en train de construire cette solution alternative. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas l'opposition de ces deux méthodes de travail.
Alors à propos d'action rapide, d'objectifs à atteindre à court terme, il y a l'idée de la dissolution de l'Assemblée nationale qui est évoquée par les représentants de plusieurs partis d'opposition, notamment le Rassemblement national et la France insoumise. Hier soir encore, en direct sur BFM, les deux leaders de ces formations ont appelé à une telle dissolution pour dégonfler la crise. Qu'est-ce que vous en pensez tous ici, Jérôme ?
Moi, je me rappelle du septennat quand j'étais gamin, où à un moment donné, quand il y avait les élections des députés, ça pouvait intervenir au milieu, ça pouvait créer un contre-pouvoir. Et on m'a dit, je n'ai pas vérifié forcément la formation, mais le meilleur moment, dans le pire de ce qu'on a vécu depuis 40 ans, c'est la cohabitation Chirac-Jospin. C'est là où la France, elle a un petit peu peut-être sursauté. On n'en a pas senti les effets, mais apparemment. Et je trouve regrettable aujourd'hui qu'on en soit arrivé à là. Au final, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Macron n'a pas de contre-pouvoir. Il fait ce qu'il veut pendant 5 piges. Et alors, voilà, bon, on veut accéder au RIC. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, à un moment donné, faire en sorte qu'à mi-mandat, on puisse décaler les élections pour qu'à mi-mandat, on puisse valider ou pas l'action du mec qui est en haut du pouvoir, quoi.
Retour à la Ve République.
Voilà, le gars, pas forcément, mais à un moment donné, le mec, on ne peut pas avoir de contre-pouvoir. Moi, j'ai discuté avec des députés, là, j'en ai rencontré 3-4 sur deux actions, et avec, comment il s'appelle, celui qui chante à l'Assemblée, là, qui est passé à... qui est passé sur une AG.
Jean Lassalle.
Et quand ils nous disent, quand on leur pose la question, mais est-ce que vous n'avez aucun levier institutionnel pour pouvoir arrêter les conneries de ce mec ? Ils disent, non, c'est pas possible. Vous voyez ? Et j'en ai vu à la manif ADP, là, quand on a été, là, le gars avec ça. On ne peut rien faire. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais pourquoi on vote pour toi ? Tu sers à quoi, garçon ? C'est-à-dire, on n'a rien qui puisse faire arrêter cet homme. Hein, il fait n'importe quoi, il tire sur son peuple, et il n'y a aucun gars dans l'Assemblée nationale qui est capable de l'arrêter. Il y a eu un problème quelque part, ou quoi ?
Tu parlais de la privatisation de l'aéroport de Paris, donc on y était ensemble devant l'Assemblée nationale, et j'ai fait partie d'une délégation avec Priscilla Ludowski pour aller voir un des groupes parlementaires. Puis à un moment donné, Priscilla a eu la bonne idée de dire « mais le référendum d'initiative partagée ». Parce que a priori, c'est un projet qui fait, enfin qui n'est plus un projet maintenant, mais cette privatisation a fait absolument l'unanimité contre elle. Hein, il n'y a que la majorité en marche, donc on peut peut-être arriver à trouver les 185 ou 190 parlementaires et à trouver les 4,5 millions de signatures. Mais le député, bonhomme, il nous dit « non, mais ça c'est impossible à faire ». Donc en fait, voilà, on sait que ce qui a été instauré, là, c'est impossible à mettre en œuvre. Et s'agissant du retour aux urnes, moi, pendant des semaines, je disais un peu malicieusement aux médias, écoutez, la solution, c'est soit il y a un changement de cap à 180 degrés, soit on a un retour aux urnes. Bon, là, maintenant, on a compris, le changement de cap, on ne l'aura jamais, hein, jusqu'à leur dernier souffle, ils défendront leurs amis, les ultra-riches. Et donc, il faut un retour aux urnes. C'est évident, quand on est démocrate, on ne craint pas le suffrage. Et donc, Emmanuel Macron, moi, je le saisis à la volée quand il dit qu'il va le faire un référendum. Bon, on ne sait toujours pas la date, on ne sait toujours pas le contenu. Mais quoi qu'il arrive, qu'il engage son mandat, comme le général de Gaulle, et puis on va voir s'il y a toujours une majorité dans le pays qui le soutient.
La soirée touche à sa fin. Avez-vous chacun une chose à dire aux Gilets jaunes et aux Français qui nous écoutent après cette semaine terrible pour notre démocratie ? François ?
Moi, je vais faire la même conclusion que j'ai faite hier. Ce qui s'est passé le 17 novembre 2018, c'est extraordinaire parce qu'il y a une mobilisation massive et que les gens ont décidé de réinvestir la politique. Et c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Parce que comme le disait, c'est la citation que j'ai utilisée, Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je crois que le temps est venu.
Écoutez, juste pour... je partage en ce qui concerne le passé. Pour ce qui nous arrive, je pense qu'il faut vraiment appeler, François l'a fait tout à l'heure, de ne pas sombrer dans la violence. Je comprends le désespoir des gens. Je comprends que cette colère peut amener à des actes qu'ils n'auraient pas commis peut-être naturellement dans d'autres contextes. Mais je les rappelle vraiment à ne pas commettre d'actes de violence, à ne pas s'inscrire dans cela parce que cela sera utilisé contre nous. Je m'inscris dans ce que Jérôme a dit pendant les élections à venir, de s'inscrire massivement sur les listes électorales et de montrer que ça nous intéresse, pas les Européennes ou l'Europe, mais ça nous intéresse de s'emparer en fait de, et surveiller. Et la dernière chose que je tiens à dire, c'est vraiment qu'on apprenne tous à converger, à travailler ensemble parce que, encore une fois, toutes les problématiques de la société, en fait, elles sont liées. Elles sont liées. J'ai toujours été choqué quand je voyais des pêcheurs, des agriculteurs, des infirmières, des professeurs, etc., finalement, défiler séparément parce qu'en fait, quand on regardait les raisons, les sources de leurs problèmes, en fait, c'est les mêmes. Donc, faisons bloc, faisons peuple ensemble et essayons justement de renverser la table.
Nathalie ?
Moi, c'est pareil, hein, je suis d'accord avec vous. Il faut absolument qu'on reste tous solidaires. Et je reviens sur ce que j'avais dit au début. Il faut que chaque personne amène une personne. On va doubler les chiffres et ça va être un yellow printemps magnifique, tout jaune. Non, je pense que c'est vraiment... voilà. Et je voudrais dire aussi que le doute est le commencement de la sagesse. Quand est-ce que M. Macron va avoir des doutes ?
Jérôme, le mot de la fin ?
Fin. J'aime bien la fin. Non, je... Enfin, voilà, faut rien lâcher, comme je dis. Ne lâchons rien. Parce que, déjà qu'on a 10 ans de retard, on aurait dû faire ça en 2008, quand on nous a demandé de payer pour les banques, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des dettes, enfin, je sais pas quoi, on doit du pognon à tout le monde, on sait même pas qui on le doit. Ne lâchons rien, parce que dans 10 ans, on pourra plus le faire. Puis moi, j'ai pas envie qu'un jour, ma gamine en regarde et dise, alors, vous avez foutu quoi, les gars, là ? Vous avez commencé, vous n'êtes même pas capable de terminer. Moi, tu m'as toujours dit, termine mon assiette.
Donne
l'exemple. Hein, vous voyez, moi, j'aime bien parce que Macron, il donne plein de conseils à plein de pays qui sont peut-être même pires que nous. Donc, c'est un peu la merde qui dit au caca, tu pues. Donc, il faut montrer l'exemple. D'accord ? Et nous, on montre l'exemple à nos enfants. Donc, j'ai envie d'être un exemple pour nos enfants, qu'on ne leur laisse pas ce que nous, on a connu, tout simplement. Donc, on lâche rien à la famille.
Yes. On lâche rien.
Merci à tous, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir à Montreuil. Mes remerciements vont à toute l'équipe du Média pour la préparation de cette émission et bien sûr particulièrement à Katrina et Antoine, les deux autres membres de l'équipe vraiment politique. Je rappelle que le Média vit entièrement de votre participation financière. Contribuez au Média, faites des dons. Abonnez-vous, aidez-nous à gagner la bataille de l'information. Seule l'indépendance financière totale nous permet de délivrer une information libre, différente de celle des médias pro-gouvernementaux et des chaînes d'information entre les mains des géants du CAC 40. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt.